Alors déjà, je vais essayer d'en fait de faire déjà de détailler toutes les primitives, on va dire, c'est-à-dire les algorithmes cryptographiques qui sont utilisés dans les blockchains, pour ensuite expliquer comment tout ça marche ensemble, quoi, en fait, quoi. Donc, j'ai d'abord commencé par définir un peu les bases des trucs. Donc déjà au début, je vais commencer par déjà expliquer les bases, enfin, qu'on appelle une base dans un système numérique, quoi. C'est-à-dire que par exemple, quand on veut représenter un nombre en, nous, on utilise la base décimale, c'est-à-dire qu'on utilise 10 chiffres. En fait, vu que la cryptographie, il y a beaucoup de grands chiffres, en fait, parce que toute la cryptographie, en fait, c'est des grands nombres qui sont représentés sous différentes formes. Faut quand même comprendre un peu ce que c'est les bases, ce que ça correspond à une base, quoi. C'est-à-dire qu'en base décimale, on utilise une base 10, c'est-à-dire qu'on a 10 chiffres pour représenter un nombre. Donc, si on utilise un chiffre, on peut aller de 0 à 10, deux chiffres de 0 à 100, trois chiffres 10 puissance n, etc. Après, bon, comme on le sait, les ordinateurs, c'est en base 2, quoi, c'est en mode binaire. Donc, chaque chiffre, donc on a 0 ou 1, quoi, c'est-à-dire que chaque chiffre peut être 0 ou 1. Donc, avec un chiffre, on peut représenter 0, 1, deux chiffres, 4, trois chiffres, 8, etc., multiplié par 2 à chaque fois. Une autre base qui est utilisée souvent, c'est l'hexadécimal. Là, ça veut dire que c'est en base 16, c'est-à-dire qu'on a 16 chiffres on peut utiliser 16 caractères par chiffre, quoi. Donc, avec un chiffre, c'est 0 à 16, deux chiffres, 16 puissance 2, etc. Et en général, c'est en hexadécimal, on utilise donc les nombres de 0 à 9 plus A, B, C, D, E, F. Il y a une autre base qui est utilisée aussi pour représenter les adresses Bitcoin, qui est la base 58. Donc là, c'est 58 chiffres. C'est toutes les lettres de A, enfin tout l'alphabet de A à Z, en minuscule, en majuscule, plus les 10 chiffres. Et ils ont enlevé le 0 et le O majuscule qui pouvaient se confondre, et le I et le L pour pas qu'ils les confondent. Donc ça donne 5. Donc il faut bien comprendre que plus la base est élevée, moins il faut de chiffres pour représenter le même nombre. Donc comme il y a souvent des gros chiffres, en fait, ils utilisent souvent des bases plus élevées que la base 10 ou que la base binaire pour raccourcir le nombre, quoi. C'est déjà la base. Alors ensuite, ça va, c'est compris à peu près, ouais, ça va. Bon. Donc ensuite, la première primitive qui est utilisée, c'est les hash cryptographiques. Donc j'ai retrouvé une petite vidéo là de Gauthier à Singular Pointe que je vais mettre dans le salon Libre Blanc qui explique bien ce que c'est, comment ça marche. Alors un hash, ça peut servir à plusieurs choses. Un autre mot qu'on utilise pour, enfin une abréviation qu'on utilise pour les hash, c'est max, c'est un truc pour vérifier les messages, quoi, code d'identification de message. C'est-à-dire que ça permet, si on prend un message ou un mail, celui qui envoie le mail calcule un hash, en fait, ça va être un nombre de 250. Bah, là, en l'occurrence, dans Bitcoin, c'est des hash 256 bits. Et bon, dans la vidéo là que j'ai postée, c'est des MD5 qui sont 128 bits. Et un hash, ça va être un nombre, en fait, d'un nombre de bits fixes. Donc, il va représenter un nombre entre 0 et 2 puissance le nombre de bits, qui va être calculé à partir d'une entrée, c'est-à-dire un message en général, ou une vidéo, un fichier, n'importe. Et qui va être unique pour ce fichier, et qui va pas laisser, en fait, qui va obfusquer, en fait, la source. C'est-à-dire qu'on peut pas déduire l'origine des données qu'a utilisées pour calculer ce hash. Et on peut pas donc le renverser, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, à partir d'un hash, on peut pas retrouver les données originales, quoi. Il n'y a pas de trace des données originales dans le hash, mais ce hash va être unique pour les données. Donc ça peut être utilisé, par exemple, justement, message authentification code. Ça, par exemple, on reçoit un mail. Si par exemple, le message peut être altéré par une erreur de réseau, une erreur de transmission. Si on envoie un hash avec le message, celui qui envoie le message calcule le hash, il envoie le message avec le hash, et celui qui reçoit le message, il recalcule le hash à partir du message, il peut vérifier que c'est bien le message original, quoi, par exemple. Ça peut aussi être utilisé, par exemple, pour les bases de données mots de passe. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker un mot de passe en clair dans une base de données, on stocke son hash, ce qui fait que ça permet de vérifier que le mot de passe entré correspond bien au hash. Alors, comme j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est un algorithme qui s'appelle SHA-256, quoi, qui va donc donner un hash 256 bits, qui peut donc être représenté en 64 chiffres hexadécimales. Pour passer de la représentation en bits ou en hexadécimal, en fait, il faut diviser par 4, c'est-à-dire que 256 bits, c'est 64 chiffres. 8 bits, c'est 2 chiffres, etc., quoi. On divise par 4, quoi. Il y a un autre aussi hash qui est utilisé dans Bitcoin. C'est un hash, en fait, ils ont mixé deux. Bon, ça, je vais expliquer après, mais c'est pour stocker les adresses publiques. Ils utilisent un mix de deux hash, qui est le SHA-256, c'est le RIPMD. Donc, le RIPMD, il est en 160 bits, donc 20 caractères hexadécimales. etc. Alors ensuite, bon, la vidéo explique à peu près pas mal, je pense. Ouais, ça arrive, ouais, c'est. Ouais, Switch. Ouais. Alors après, avec les hash, il y a un autre algorithme qui utilise dans les blockchains, qui utilise les hash, c'est ce qu'on appelle les graphes de Merkel. Alors, autant avec un hash, on peut vérifier un message. Mais par exemple, si on veut les graphes de Merkel, c'est utilisé pour si on veut vérifier qu'un élément est présent dans une liste d'éléments. À la base, c'est utilisé par exemple sur le protocole BitTorrent, parce que BitTorrent, donc c'est un système de partage de fichiers, mais les fichiers ils sont fragmentés en petits bouts. Et donc, par exemple, quand on reçoit un fragment de fichier, on veut vérifier que ce fragment fait bien partie du fichier sans avoir besoin de télécharger tout le fichier pour calculer le hash du fichier complet, quoi. Alors, pour faire ça, en fait, alors j'ai les images, attends, faut les copier. Alors en fait, quand on veut pas transmettre justement une liste d'éléments qui sont donc ce qu'il y a tout en bas, quoi, on va calculer ce qu'il appelle une racine de Merkel, quoi. C'est-à-dire que c'est le hash qui est tout en haut. Donc pour ce faire, on va calculer les hash de tous les éléments. C'est qu'on aura la liste qui est tout en bas, H1, H2, H3. Ensuite, on va les hacher ensemble et deux par deux. On va répéter ça jusqu'à arriver au hash racine. Et ça a ses propriétés que pour vérifier si un élément fait bien partie de la liste originale. Par exemple, s'il y a 16, on a besoin de sur une liste de n éléments, on a besoin de log de n éléments, quoi. C'est-à-dire s'il y a 16 éléments, on a besoin de 4 hash pour vérifier que l'élément est bien dans le truc. S'il y a 1024 éléments, on a besoin de 10 hash pour vérifier que le multibook qu'on a, il fait bien partie de la liste en ayant juste la racine, quoi. Ce qui fait que ça permet de vérifier des listes d'éléments rapidement sans avoir à tout télécharger, quoi. Ensuite, c'est le principe de la cryptographie asymétrique. Ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, la cryptographie asymétrique, ça s'appelle comme ça. C'est par opposition à la cryptographie symétrique, où dans la cryptographie symétrique, c'est la même clé qui est utilisée pour encrypter et décrypter le fichier. Ce qui peut poser le problème de quand on veut envoyer un message à quelqu'un sur un réseau non sécurisé, ce qui est le but du chiffrement. Si on envoie la clé en même temps que le message, quelqu'un qui écoute le message peut avoir la clé et donc décrypter le message. Alors que les systèmes de cryptographie asymétrique, c'est un système à base de deux clés. Chaque personne va avoir deux clés, en fait. Il y a une clé privée et une clé publique. La clé privée, elle est générée aléatoirement sur chaque côté communication. Et la clé publique, elle est calculée à partir de la clé privée. Mais par contre, c'est mathématiquement très difficile de retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Sauf avec les ordinateurs quantiques. Mais bon, ça, on n'y est pas encore. Alors, il y a deux grandes catégories d'algorithmes de cryptographie asymétrique. Il y a le RSA qui est basé sur les nombres premiers. Donc là, la difficulté est basée sur ce qu'on appelle la factorisation des nombres premiers. Ça, je sais pas si je dois détailler, mais bon, si vous voulez, ça, il y a un super bouquin là-dessus. Ça s'appelle La Symphonie des nombres premiers, qui est vachement bien. Franchement, je conseille à tout le monde de lire. Ça explique vachement bien toute la logique des nombres premiers. Mais en gros, c'est basé sur le fait qu'en fait, bon, c'est pas ça qu'utilise un Bitcoin. Hein, mais bon, je peux détailler vite fait histoire de faire la culture de la cryptographie. Mais en gros, c'est basé sur le fait, les nombres premiers, en fait, c'est des nombres qui sont divisibles que par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sous-multiples. Et la théorie des nombres veut que chaque nombre est soit un nombre premier, soit peut être décomposé en des sous-multiples de nombres premiers, quoi. C'est-à-dire que soit un nombre est un nombre premier, soit il peut être produit par une multiplication d'un certain nombre de nombres premiers, quoi. Et la cryptographie RSA est basée sur le fait qu'on garde un des facteurs premiers. Et avec certains calculs, on peut prouver qu'on possède un de ces facteurs premiers. En divulguant que 1. Donc ça permet de. Et vu que c'est mathématiquement très compliqué de faire ce qu'ils appellent la réduction à des facteurs premiers, ça, c'est que ça permet de qu'on puisse pas retrouver la clé privée à partir de la clé publique. Ce qui est utilisé dans Bitcoin, c'est basé sur les clés elliptiques. Et en fait, avec le système RSA, par exemple, ça permet de crypter un message avec la clé privée et de la décrypter avec la clé publique. Ce qui fait qu'on peut envoyer un message avec la clé publique et le crypter avec la clé privée, ce qui fait que la personne peut le décrypter avec la clé publique, mais il ne pourra pas réencrypter un message avec la même clé. Donc, quelqu'un qui écoute le message, il ne pourra pas réencrypter un message qui pourra passer pour la personne, quoi, sans posséder la clé privée. Mais bon, ça, c'est... Ouais, alors, avec le Bitcoin, c'est des elliptiques. C'est le même principe, en gros, que ça. C'est-à-dire que t'as un algorithme qui va générer une clé privée aléatoirement, qui va être gardée par la personne qui veut... Par chaque personne va avoir une clé privée et ce qui va divulguer, c'est de la clé publique. Et après, il y a toute une catégorie d'algorithmes en fait qui permet de vérifier que la personne est bien en possession de la clé privée en divulguant uniquement sa clé publique. Alors dans le cadre des blockchains, le seul truc qui est vraiment utilisé, le seul algorithme utilisé, c'est la signature numérique. Alors, la signature numérique, c'est alors il y a trois fonctions principales. Donc tu as généré la clé privée qui doit être aléatoire. Il doit être aussi aléatoire que possible, pas qu'on puisse inférer quelle est. Après, il y a générer une signature numérique. Alors, pour générer une signature numérique, on prend la clé privée et un message. Et cette fonction, elle va générer ce qu'on appelle une signature numérique. Et après, une autre fonction, c'est de vérifier la signature numérique. À partir de la clé publique, du message et de la signature, on peut vérifier que la personne a bien eu connaissance du message à partir de la signature, du message. Et de la clé publique, sans que la clé privée soit divulguée sur le réseau. C'est que même si quelqu'un écoute la communication, il ne pourra pas répliquer une signature. Ça s'appelle ECDSA, l'algorithme. Elliptic Curve Digital Signature. Ça, c'est un point important. Voilà, ça, c'était toutes les primitives cryptographiques, en gros, qui sont utilisées dans une blockchain. Donc après, la difficulté en fait d'expliquer une blockchain, c'est qu'en fait, ça cumule plusieurs fonctions en même temps. Il y a un système de réseau peer-to-peer, c'est-à-dire un système de réseau peer-to-peer, ça se définit par opposition à une architecture client-serveur classique, où tous les utilisateurs vont se connecter à un serveur et c'est le serveur qui va connecter les utilisateurs ensemble, alors que dans un réseau peer-to-peer, les utilisateurs se connectent tous ensemble. Se connecte directement à la personne, quoi. Par exemple, Discord, c'est une architecture client-serveur classique, quoi. C'est-à-dire que tous les utilisateurs se connectent à un serveur, mais on n'est pas connecté directement l'un à l'autre, quoi. Et c'est le serveur qui répartit les paquets après aux utilisateurs. Il y a aussi, donc, forcément, un système de base de données. C'est-à-dire, c'est un système qui garde des données, en fait, structurées. Et il y a un système monétaire, d'émission monétaire, quoi. C'est-à-dire une politique d'émission monétaire. C'est les trois gros éléments, en fait, dans une blockchain. Alors en gros, après je vais expliquer un peu ce que c'est en gros les théories des systèmes distribués, quoi. Alors, parce qu'en fait, dans une application, il peut y avoir en gros deux grandes catégories d'applications. Il peut y avoir une application locale, par exemple comme OpenOffice, c'est une application qui tourne sur un seul ordinateur, qui n'a qu'un seul utilisateur et qui ne dépend pas d'autres ordinateurs, quoi. Elle tourne que sur un ordinateur. Une application distribuée, c'est une application qui va être découpée en plein de petits bouts qui vont tourner sur plein de machines différentes. Et chaque petit bout de l'application doit pouvoir modifier l'état du système de manière à ce que tous les autres petits bouts d'application puissent voir la modification. Donc dans la théorie des systèmes distribués, il y a ce qu'on appelle le théorème CAP, quoi. C'est un théorème qui régit toutes les systèmes distribués, en fait, quoi. Qui s'appelle, donc CAP, c'est pour cohérence, availabilité et partition tolérance. La cohérence, en gros, c'est est-ce que donc vu que l'application elle sépare en plein de petits bouts, c'est-à-dire que dans un réseau peer-to-peer on appelle ça des nœuds, c'est-à-dire que c'est par exemple Discord par exemple, chaque personne qui est sur le salon va faire tourner un bout de l'application sur son téléphone, il y a un bout qui tourne sur le serveur, et la cohérence c'est de savoir si tout le monde a la même version des données, quoi. C'est-à-dire si on voit un message sur le serveur, est-ce que tout le monde a bien reçu le message, est-ce que tous les nœuds sont synchronisés, quoi. La disponibilité, c'est par exemple dans un cas où il peut y avoir un problème de cohérence, c'est-à-dire si un message a mal été reçu par un serveur ou s'il y a un doute sur le fait que tous les nœuds soient à jour, est-ce qu'on va quand même envoyer une requête, est-ce qu'on va quand même répondre à la requête ou est-ce qu'on va bloquer en attendant que tout soit à jour, quoi. Et la tolérance aux partitions, c'est est-ce que le système peut tolérer d'être divisé. Par exemple, si on prend un système, pardon, de trafic routier, par exemple, si on prend le trafic routier de la France, qu'on veut savoir le trafic sur Rennes, c'est pas très grave si le système est partitionné et qu'on n'a pas les données de Paris, quoi. Le système peut quand même fonctionner. Si on prend un serveur, par exemple, comme là, de conférence, si le serveur est partitionné, qu'il y a une partie des utilisateurs qui est comme les IRC, comme ça splittait, là, c'est un système qui a pas de tolérance à la partition. Donc ça dépend des systèmes, quoi. Mais en gros, le problème, c'est que c'est un trilemme. C'est-à-dire que dès qu'on va vers un, on perd l'autre, quoi. C'est-à-dire que si on veut tout le temps être disponible, ça veut dire qu'on perd la cohérence et on perd la tolérance aux partitions. Si on veut, voilà, c'est en général, on prend ça sur une forme de triangle et plus on se rapproche d'une pointe et plus on s'éloigne de l'autre, quoi. Et tous les systèmes distribués, en général, ils se situent, enfin, même tous, hein, ils se situent quelque part sur ce triangle. Bitcoin se situerait plutôt du côté disponibilité et tolérance aux partitions. C'est-à-dire qu'un nœud Bitcoin, il va toujours répondre, même s'il est pas, si on n'a pas la, si, les, si on n'est pas sûr qu'il est synchronisé avec le reste du réseau. Et il peut aussi tolérer les partitions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment T d'une blockchain plusieurs versions de la blockchain qui existent sur le réseau. Ça n'empêchera pas le nœud de répondre. Et le gros problème des réseaux peer-to-peer, c'est justement pour ce genre de truc, c'est la cohérence, c'est-à-dire comment on s'assure que qu'on ping un nœud, on a bien la même, qu'on a bien une version qui va être la même sur tous les nœuds. Ça, c'est le gros problème du quelques temps de réseau de Bitcoin qui était insoluble avant. C'est-à-dire que sur un réseau peer-to-peer, c'est très difficile de s'assurer de la cohérence du réseau, quoi, vu qu'on n'a pas d'autorité centrale. Sur qu'on a un serveur central, la cohérence elle est assurée par le serveur central. On peut facilement vérifier que tout le monde est à jour parce que tout le monde va sur le même serveur, quoi. Donc le serveur peut s'assurer en interne que tout est cohérent. Alors que quand c'est des nœuds qui sont répartis comme ça un peu sur toute la planète, il n'y a pas vraiment de moyen de savoir si tout le monde est sur la même blockchain, quoi. Enfin, avant Bitcoin, il n'y avait pas vraiment moyen de faire ça, quoi. Donc en fait, ça a été modélisé sous la forme du problème du général byzantin. Donc le problème du général byzantin, c'est un problème qui a été posé, je ne sais plus quand, mais en tout cas, c'est un problème en fait où il y a une forteresse qui doit être attaquée et l'armée est divisée en deux. Et pour que l'attaque fonctionne, il faut que tout le monde attaque en même temps. Et donc mais le général peut pas communiquer directement avec l'autre partie de l'armée. C'est-à-dire que le message peut se faire intercepter vu qu'ils sont chacun de chaque côté. Si on voit un message, il peut se faire intercepter entre-temps. Et donc le problème, c'est comment est-ce qu'un soldat peut être sûr que qu'on a l'information que toute l'armée que toute l'armée a bien le même message, quoi. Ça, c'est un problème qui était qui en termes de système distribué s'appelle la tolérance aux fautes byzantines, c'est-à-dire comment chaque nœud peut vérifier que le système fonctionne correctement, quoi, finalement. Ce qui est un problème qui était jusqu'à Bitcoin insoluble. Alors comment Bitcoin résout ça? C'est avec la preuve de travail. La preuve de travail, c'est aussi basé sur les hash. Pour faire l'analogie avec le général byzantin, c'est comme si, en fait, pour prouver que toute l'armée a bien reçu le même message, le message il va être écrit une fois et après, un calcul qui va être basé sur ce message va être fait par chaque soldat. Et le calcul est tellement grand que, en fait, si on a bien le bon calcul à la fin, ça prouve que toute l'armée a bien pris conscience du message et a bien validé le plan. Alors le proof of work, comment ça fonctionne? Alors à la base, le proof of work, ça n'a pas été inventé par Bitcoin. La première fois où ça a été utilisé, c'était pour le système Hashcash, qui était utilisé pour éviter le spam sur les mails. Donc l'idée, c'était que quand on reçoit un mail, on puisse prouver que celui qui a envoyé le mail a dépensé une certaine quantité d'énergie pour l'envoyer, ce qui fait qu'en fait, ça va pas coûter très cher à un utilisateur. Mais si un spammeur va en envoyer 1000, ça va être rédhibitoire pour lui. Et donc l'idée, l'idée du proof of work, c'est d'utiliser donc les algorithmes de hash qui ne sont pas réversibles. Et en fait, ça va faire un peu le. Ça peut être résolu, ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, ouais. En tout cas, la solution de Bitcoin, en tout cas, c'est avec le proof of work. Et donc, alors, en fait, donc, les hash, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un très grand nombre, un nombre donc de 256 bits. Et comme c'est un truc aléatoire, en fait, on peut dire qu'en fait, c'est comme si je sais pas si vous connaissez le jeu de palais, par exemple. Tu vois, c'est un jeu où on doit lancer des palais sur une planche. Je pense c'est un peu comme la pétanque. Sauf qu'en fait, ce serait comme si, en fait, pour lancer la boule, on choisissait un nombre sur une planche et ça correspond à un espace, en fait, sur la planche. Mais on ne sait pas où, quoi. Donc, à chaque fois qu'on lance une boule, on met un nombre au hasard et ça va mettre la boule quelque part sur la planche. Donc, on va diviser après donc l'espace en deux, mettons. C'est-à-dire si on divise l'espace en deux et qu'on dit il faut que la boule arrive dans la moitié du haut, ça veut dire que techniquement, tu as une chance sur deux quand tu rentres un chiffre que la boule arrive dans cet espace-là, par exemple. Donc, c'est un peu pareil avec les H, quoi. C'est-à-dire le but va être de trouver un H, c'est-à-dire un nombre qui va être inférieur à une certaine limite fixée, quoi. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un H qui serait au lieu d'être sur 256 bits, qui est un nombre assez énorme, hein, 256 bits, ça correspond à un nombre en décimale à 77 zéros. Donc c'est énorme. Mais si on prend un nombre qui va être entre 0 et 1000, par exemple, si on dit que le H il doit être inférieur à 500, il faudra une chance sur 2. Si on dit qu'il doit être inférieur à 100, il faudra une chance sur 10. Et donc, plus le nombre minimal, plus le nombre maximal va être bas, plus la difficulté va être élevée, quoi. Et donc, on définit une difficulté comme ça, c'est-à-dire que plus la difficulté, ça va être le nombre maximal, enfin la valeur maximale que doit prendre le H. Et donc, plus il est bas, et plus il faudra statistiquement calculer un nombre de H élevé pour trouver un nombre qui est plus bas. Et vu qu'on ne peut pas partir d'un H déjà, on peut pas partir d'un H avec temps zéro et retrouver une donnée qui donne ce H, quoi. Donc ça fait que statistiquement, il faut une chance sur plus le chiffre est bas et plus il faudra de H. Et comme à chaque H, ça coûte un certain nombre d'énergie, ça veut dire qu'on peut faire un algorithme qui pourra facilement vérifier qu'une quantité d'énergie a été dépensée pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire qu'on pour le mail, on va utiliser par exemple pour le hashcash, par exemple, ça va utiliser par exemple un truc unique, genre la date et l'heure et le mail de destination. Et ajouter une valeur aléatoire derrière pour trouver un hash qui est suffisamment bas pour que ça puisse prouver qu'il a dépensé tant d'énergie. Alors comment c'est utilisé dans Bitcoin? Alors une blockchain, comme le nom l'indique, c'est une série de blocs, une chaîne de blocs. Donc un bloc, c'est composé en gros d'une entête. Donc l'entête, ça va contenir donc la racine Merkel, que j'ai définie tout à l'heure, la racine Merkel de toutes les transactions que le bloc contient. Ça va contenir le hash du bloc précédent. Comme ça, on peut vérifier que ce hash est bien la suite, quoi. Et qu'on ne peut pas le précalculer, on va dire, bien avant, parce que ça s'ajoute au bloc, quoi. On ne peut pas le précalculer avant. Ça évite les attaques replay et tout ça. Et ça contient le temps, enfin un timestamp, quoi, l'heure du bloc. Et un nombre qui va être un blanc, en fait, qui va être rempli justement pour calculer un hash. Et il faut que donc le hash de cette entête de bloc soit inférieur à un certain nombre pour que le réseau accepte le bloc, quoi, pour que le bloc soit valide, quoi. Ce qui fait que ça peut ça, 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 vu qu'il faut calculer un certain nombre de vu qu'il faut que le réseau calcule un certain nombre de hash pour valider ce bloc, ça prouve en fait qu'une majorité du réseau que la, que une majorité de la puissance du calcul du réseau à alors Merkel, ça. Ouais, c'est Mesa Markel, ouais, c'est bon, c'est un petit peu compliqué, mais ouais, quoi, donc à partir de cette entête de bloc, on peut vérifier donc la proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail qui a été effectuée sur le réseau. Et la difficulté s'ajuste, en fait, le Bitcoin fait en sorte que il faut à peu près un bloc, nouveau bloc toutes les 10 minutes. Et donc à chaque nouveau bloc, en fait, la difficulté, c'est-à-dire le nombre maximal que doit prendre le hash, s'ajuste en fonction du temps qui a été pris pour calculer le bloc précédent. C'est-à-dire que si le dernier bloc a mis 20 minutes au lieu de 10 minutes, la difficulté est divisée par deux, donc le nombre augmente par deux. Si ça a mis 5 minutes, la difficulté augmente. pour avoir un bloc toutes les 10 minutes en moyenne, quoi. Donc comme ça, si le réseau grandit plus, enfin plus le nombre de mineurs grandit, plus la difficulté augmente, quoi. Regardez sur un bloc de 10 minutes. Après, d'autres blockchains peuvent avoir un autre temps de bloc. Et donc le bloc, après, donc il contient, donc ça c'est l'entête de bloc, et il contient après des transactions. Il faut bien aussi noter effectivement que contrairement à ce qu'on entend souvent, la proof of work, ce n'est pas un travail qui est utilisé pour miner un bitcoin, quoi. La quantité de bitcoin miné, elle est toujours constante. Il y aura toujours le même nombre de bitcoin miné toutes les 10 minutes, peu importe la quantité d'énergie, hein. Ce n'est pas un coût de production, quoi. Faut être clair, c'est pas un coût de production, c'est juste un truc pour résoudre le problème du général byzantin, quoi. Alors, donc le bloc contient des transactions, et donc la première transaction de chaque bloc. Bonjour. La première transaction de chaque bloc, en fait, contient ce qu'on une transaction, normalement, il y a une entrée et une sortie, quoi. C'est-à-dire que ça va enlever des bitcoins d'un compte et ça va le rajouter sur l'autre compte. La première transaction, elle n'enlève rien, c'est une émission, quoi. Elle rajoute un nouveau bitcoin sur la blockchain, un certain nombre de bitcoins. Donc ça c'est une courbe d'émission. Tout au début, la blockchain, pour chaque bloc, il y avait 50 bitcoins émis. Et il y a ce qu'ils appellent le halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans, ce nombre diminue. Parce que le but, c'était d'arriver à ce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de bitcoins qui sont minés pour arriver à une certaine masse monétaire qui sera fixe. Parce que ça, c'est quand même assez critique dans le design de Bitcoin, qu'il faut pouvoir contrôler l'émission monétaire, quoi. C'est-à-dire que si une monnaie, on peut en émettre arbitrairement, ça sert à rien, quoi. C'est un truc qui est critique, c'est de contrôler combien il y a de Bitcoin sur le réseau à un moment T, quoi. Donc ça c'est défini de base dans le protocole. Les premiers blocs c'est 50 bitcoins, au bout de temps de blocs ça sera 25, au bout de temps de blocs ça sera 12,5, etc. Et jusqu'à arriver à un moment donné à un minage qui sera ridicule à ce moment-là. Et donc ce bitcoin qui est miné, il va donc être donné à celui qui a trouvé le hash du bloc, qui a trouvé la bonne entête de bloc en fait, qui correspond, qui une fois haché est inférieur à un certain nombre, quoi. C'est un peu comme dans la vidéo en fait que j'ai montré de 21 millions. Ouais. Il y aura 21 millions de bitcoins à la fin, quoi. Mais c'est un symptôme, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais exactement 21 millions. Et donc en fait, quand une personne en fait génère un bloc, en fait, donc chaque nœud en fait peut, en fait, donc dans chaque nœud, il y a ce qu'ils appellent une memory pool. C'est-à-dire que quand une personne veut envoyer un bitcoin, il va envoyer une transaction sur le réseau qui va être stockée en mémoire sur le réseau. Et les nodes, en fait, elles vont générer un bloc à partir de cette transaction qui sont dans la memory pool, les inclure dans un bloc, calculer la racine Merkel, la mettre dans l'entête de bloc, et à partir de là, calculer une entête de bloc en remplissant le blanc qui est dans le nonce, qui sont inférieurs au hash. Voilà. Et le mineur, donc quand il génère ce bloc, donc chaque node, quand il génère ce bloc-là, dont la première transaction, elle va émettre un bitcoin qui va aller à son adresse, quoi. Et l'adresse, en fait, une adresse bitcoin, en fait, c'est ce que j'avais expliqué sur la cryptographie asymétrique, c'est une clé publique qui peut être. Donc en fait, parce qu'en fait, des transactions, alors parce que j'ai expliqué comment ça marche les transactions. Donc les transactions, en fait, ça contient une liste d'entrées, c'est-à-dire c'est les bitcoins qui vont être transférés, et une liste de sortie qui va être où elles vont être transférées, quoi. C'est-à-dire que ça enlève des bitcoins et ça en rajoute de l'autre côté, quoi. Dans les sorties, une sortie, ça contient un nombre de bitcoins et un script. Ce script, à 99%, il y a deux types de scripts. C'est en gros des scripts de paiement classiques qui contiennent juste en gros la clé publique de la personne à qui vont être transférés les bitcoins. Il y a les pay-to-script qui vont contenir en gros un hash de la clé publique. Ça permet de protéger la clé publique. Ce qui fait que même en cas d'attaque quantique, la clé publique n'est pas diffusée sur le réseau et donc elle peut pas être craquée avant que ce bitcoin soit dépensé, quoi. Donc justement, ça c'est justement ce format-là. Il utilise un double hash, H256 bits SHA et RIP MD 160. C'est un double hash, donc normalement c'est censé être assez résistant même au quantique. Donc tant que le Bitcoin n'est pas dépensé, la clé publique est protégée, on peut même avec une attaque quantique, on ne peut pas retrouver la clé privée. Donc on ne peut pas vraiment l'utiliser sans avoir la clé privée. Et donc les entrées, elles contiennent une référence vers une sortie précédente, qui peut être soit un Bitcoin qui a été émis comme récompense de bloc. Le mineur, il a mis son adresse dedans, donc il pourra le dépenser s'il a la clé privée. Et l'entrée contient donc une référence vers cette sortie-là et une signature qui correspond à la clé publique qui est dans la sortie. C'est-à-dire que pour dépenser un Bitcoin qui est dans une sortie, il faut émettre une transaction qui prend pour entrée cette sortie-là et une signature qui correspond à la clé publique qui est dans le script de sortie. Donc forcément, ça doit vérifier que la somme qui est écrite dans la sortie est inférieure ou égale à la somme de la sortie précédente, quoi. C'est-à-dire que si par exemple on veut dépenser une sortie où il y a 10, que ce soit inférieur ou égal à 10, si la sortie est inférieure à 10, par exemple si on prend en gros il y a 10 bitcoins, qu'en sortie on met que 9, la différence sera donnée au mineur, à celui qui a trouvé le bloc, qui a miné la transaction. Ce qui fait que normalement, quand Bitcoin arrivera à la fin du minage, normalement, c'est censé être financé avec ses prêts de transaction. C'est-à-dire que, je sais pas, qu'on fait une transaction, on récupère, on envoie un peu moins que ce qu'on prend, et la différence va au mineur. En gros, ouais, pour le gros, fonctionnement d'une blockchain, ça, c'est à peu près ça, quoi. C'est un truc simple. Après, ouais, coins, ouais. Alors ça, après, c'est le côté économique du truc, justement. Parce que ça, c'est l'aspect, on va dire, technique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça permet de faire ça? Parce que, grâce aux entêtes de blocs, qui sont faites de cette façon-là avec les racines Merkel, ça permet qu'en fait, donc une entête de bloc, ça fait 80 octets, quoi. Ça contient le hash du groupe précédent qui fait 32 octets. La racine Merkel qui fait 32 octets, un timestamp qui fait 4 octets, et je sais plus, enfin bref, ça pèse 80 octets. C'est-à-dire que vu qu'il y a un bloc toutes les 10 minutes, en gros, ça fait 2 mégas par an. Et donc, juste en téléchargeant ces entêtes de blocs-là, qui pèsent 2 mégas par an, on peut vérifier qu'une transaction a été inclue dans la blockchain. Et on peut vérifier que la proof of work correspond bien à bien la plus. C'est-à-dire que si on collecte sur plusieurs nodes, on peut bien vérifier que la chaîne sur laquelle on est bien celle qui a la plus de proof of work, qui est la plus longue et qui a la plus de proof of work. Et à partir du moment où on a ces entêtes de blocs, on peut vérifier qu'une transaction est bien inclue en téléchargeant juste un nombre faible de hash pour vérifier qu'une transaction. Avec les graphes de Merkel, vu que chaque bloc peut à peu près inclure 5000 transactions, il faudra à peu près 12 hash en gros pour vérifier qu'une transaction a été inclue dans un bloc. C'est-à-dire qu'on télécharge dans deux blocs qui font 2 mégas par an, c'est-à-dire que là, ça tape autour de 10 mégas. Une fois qu'on a téléchargé ça, on peut vérifier. Alors ça, j'y viendrai après, tout le côté monétaire et tout investissement. Mais là, ça va pas être le jeu. Donc à partir de ce moment-là, on peut vérifier qu'une transaction a bien été inclue dans la blockchain majoritaire, quoi. Juste avec très peu de données, en fait. C'est tout l'intérêt d'avoir des entêtes de blocs avec la racine Merkel, quoi. Alors ensuite, pour le côté économique, justement, parce qu'en fait, donc, ce qui, alors c'est pour la théorie de, en fait, on va dire, de pourquoi Bitcoin a été inventé, en fait. Qu'est-ce que ça résout comme problème, en fait. Donc là, je vais, parce qu'en fait, bon, voilà, il y a beaucoup qui parlent d'investissement, mais en fait, à la base, c'était pas vraiment conçu comme un investissement. Je veux dire, Satoshi le dit clairement noir sur blanc, ça va pas être vu comme une action ou comme un truc qui va donner des dividendes. Parce que il y a pas d'activité économique derrière, et donc ça, c'est pas un truc qui va pouvoir t'envoyer un chèque, quoi. Genre, tu vois, genre, par exemple, un vrai investissement productif, par exemple, si t'achètes un champ, par exemple, tous les ans, voilà, c'était une monnaie anonyme à la base, voilà. C'était pas du tout un schéma d'investissement, et ça, je veux dire, tous les créateurs de Bitcoin l'ont dit dès le départ assez clairement que c'était pas un vecteur d'investissement, qu'il n'y a pas d'économie productive derrière. Voilà, c'est censé être un système de paiement, quoi. C'est-à-dire un système qu'on peut... Parce qu'en fait, alors, voilà, qu'est-ce que ça résout, quand même? Alors, justement, là, je vais me baser sur le bouquin, là, que j'ai posté dans, qui est très bien, hein, d'ailleurs, le bouquin qui s'appelle Popping the Cryptocurrency Bubble. Donc, eux, ils disent, en fait, que, je crois, je suis assez d'accord, en fait, que c'est, qu'en fait, les trois piliers philosophiques de Bitcoin, ça sort un peu de trois trucs. Il y a, le crypto-anarchisme. Mais ça, le crypto-anarchisme, pour moi, c'est un truc un peu fantôme. Alors, il y a un manifesto qui s'appelle The Manifesto Crypto-Anarchisme, mais moi, je connais personne qui est crypto-anarchiste et je ne vois pas de groupe crypto-anarchiste. Donc, pour moi, ça, c'est un truc qui est un peu fantôme. Après, il y a l'Austrian Economics, c'est-à-dire l'économie autrichienne. Alors ça, bon, je vous conseille de regarder le livre blanc qu'il y a eu il y a 2 jours et qui explique bien ce que c'est l'économie autrichienne. Mais en gros, moi, de mon expérience, effectivement, ça a attiré tout un tas de gens qui viennent de ce courant économique, c'est-à-dire qui croient beaucoup, qui croient pas du tout dans la régulation des banques centrales, qui croient beaucoup dans les talons or. Et qui sont un peu, on va dire, sur une mouvance complotiste, un peu trumpiste, un peu parano. Mais en gros, enfin, faut quand même dire sur l'économie autrichienne, c'est que aucun État est basé sur une économie autrichienne, que c'est un truc vraiment théorique et que ça, y a aucun endroit où c'est appliqué, quoi. C'est vraiment un truc sur le papier, quoi. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens, genre dans tous les gens que je connaissais qui étaient dans Bitcoin assez tôt, dans les années 2013 ou 2014, c'était des gens qui étaient effectivement intéressés dans l'or et l'argent pour comme en tant qu'investissement. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de ces marchés-là, quoi. D'où un peu la dénomination d'or numérique et tout ça. Mais bon, ça c'est pareil. Genre Bitcoin, c'est il n'y a pas de valeur précise en fait. Hein, je veux dire, Bitcoin n'a pas été. Genre, c'est pour ça que souvent on confond le proof of work. Souvent, j'entends des gens dire ouais, mais Bitcoin ça. Ça a une valeur parce que ça coûte quelque chose pour le miner, mais ça coûte rien pour le miner, en fait. C'est-à-dire, tu peux aussi bien, enfin, tout au début, les tout premiers bitcoins, ils ont été minés avec des tout petits CPU. Je veux dire, il n'y a pas de coût minimal pour miner un bitcoin, je veux dire, quoi. Ça dépend vraiment de combien, combien le marché est prêt à acheter, en fait, le reward qui est mis dans la première transaction du bloc, quoi, qui va aller vers le mineur, quoi. C'est vraiment ça qui détermine la puissance de minage, quoi. Si le Bitcoin vaut 1 dollar, la puissance de minage, elle sera très faible. S'il vaut 1000 dollars, elle sera 1000 fois plus élevée. S'il vaut 10 000, 10 000, 10 points plus élevée. Mais je veux dire, il y aura toujours le même nombre de Bitcoins émis et c'est pas du tout un coût de production ou une valeur qui peut servir à calculer une valeur plancher, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, apparemment, dans ce livre-là, ils expliquent que d'ailleurs, même s'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les théories d'économie autrichienne, sont attirés par Bitcoin, la réciproque est pas vraie, quoi. C'est-à-dire que les théoriciens d'économie autrichienne disent pas de Bitcoin, c'est une bonne solution. Et troisième, qui sont ce qui donc la troisième le troisième pilier du truc, c'est ce qu'ils appellent le technolibéralisme, techno-libertarianisme, c'est-à-dire c'est la culture un peu hacker, quoi. La culture hacker qui vient, alors ils définissent ça comme une culture qui a émergé du MIT. Alors, ça trace ses racines au MIT. Nanana. Alors, voilà, il cite le journaliste Stephen Levy qui a canonisé l'hacker éthique dans son bouquin de 1984, Hackers, les héros de la révolution informatique. Donc, Levy définit 5 valeurs des hackers, qui sont le partage, l'ouverture, la décentralisation, l'accès libre aux ordinateurs et comment dire, l'amélioration sociale, quoi. Mais alors voilà, les mini-hackers, en fait, c'était un milieu qui était très basé sur le partage. Ouais, il y a aussi bon, les My Living Cyberpunk aussi, ouais, ça, c'est pas la culture hacker, mais je veux dire, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les années 80-90, il y avait une très forte culture du partage. C'est-à-dire que c'était aussi bien sur l'open source, mais aussi sur, par exemple, moi, je connaissais pas mal la culture des mods. C'est-à-dire les mods, c'était des musiques qu'ils faisaient sur les trackers. Mais ça, c'était très prolifique. Il y en avait des centaines par mois. Les gens, ils faisaient ça gratuitement. Ils publiaient ça comme ça, quoi. Il y avait la démo scène, il y avait les free parties. Enfin, tous les mouvements des années 80-90, c'était très basé sur le côté partage de l'information. Et un des problèmes qui s'est posé assez tôt avec ça, c'est le problème de la propriété numérique. C'est-à-dire, autant un objet physique, on arrive à peu près bien à définir ce que c'est que la propriété, c'est-à-dire que tu as un CD, bon bah c'est toi qui l'as, c'est toi qui as le CD. Dès qu'on arrive dans le numérique où tout peut être copié à l'infini, il y a toujours eu ce problème de comment on définit la propriété numérique sur un système numérique, quoi. Ce qui était un truc assez compliqué à définir. Et comment on peut la transférer, etc. Justement sur un réseau qui soit le plus décentralisé possible, quoi. Pour pas dépendre, parce qu'en plus la plupart du temps ces trucs-là c'était des trucs, on va dire, qui étaient sous pseudonyme, c'est-à-dire qui étaient anonymes. Bien voir que c'était pas des gens qui avaient forcément les entreprises, qui avaient forcément un business model. Donc c'était des trucs et ça c'est Éric Raymond qui a assez bien théorisé ça d'ailleurs dans son papier qui s'appelle Le Chaudron Magique, The Magic Chaudron, qui explique que finalement à partir du moment où par exemple soit tu as développé un patch pour un logiciel ou tu as fait une musique ou tu as fait un dessin et que t'as pas fait d'études de marché, t'as pas spécialement de marché pour, t'as pas forcément de moyens de paiement qui peut te tracer, c'est autant le publier gratuitement quoi en fait. Ton intérêt il y a là quoi, c'est Le Chaudron Magique de Éric Raymond. C'est un papier qui explique la théorie des jeux de l'open source en gros quoi. Mais l'open source c'était pas, avec les trackers pardon de la musique, c'était pas comme un MP3 où c'était tout mixé quoi. Là t'avais encore les pistes, t'avais encore les samples, et donc tu pouvais facilement reprendre les samples, modifier, etc. quoi. Donc c'était un peu cette culture-là comme dans les free parties du partage de gratuit parce que c'était pas, de toute façon ça coûtait pas très cher et puis c'est des gens qui faisaient ça comme ça sans but commercial. Mais arrivé dans les années 2000, ça a commencé à grave gripper avec les maisons de disques hein, comme tout le monde chacun sait. Enfin je sais pas si tout le monde sait d'ailleurs, mais bon. Au début des années 2000, ça a commencé à poser grave de problèmes avec le partage. Jusqu'à l'année 2000, il n'y avait pas encore trop d'Internet. Il n'y avait pas encore le MP3, donc ils étaient encore à peu près sécurisés. Mais pour avoir été dans ce milieu-là dans les années 2000, c'est clair que, pour passer l'expression, les majors séchaient dans leur froc. Là, c'était la fin pour eux, quoi. Parce qu'on pouvait copier indéfiniment tout ce qu'on voulait et que ça posait grave de problèmes pour eux, quoi. La culture du partage, ils n'étaient pas trop pour eux, parce que ils avaient quand même des bébêtes à faire. Et donc, il y avait tout un tas de systèmes qui ont été pensés à l'époque pour tokeniser des trucs, pour faire des paiements bah, plus ou moins anonymes sur Internet, parce que c'est toujours pareil. À cette époque-là, ça a ouvert la possibilité, en fait, bon, qui s'est pas trop réalisé, mais il faut bien voir qu'avant les années 2000, tu étais un artiste, tu voulais te produire, c'était très compliqué. Je veux dire, il fallait aller à un studio, t'avais pas. Alors que dans les 2000, il y a commencé à avoir des studios abordables que tu pouvais avoir pratiquement chez toi, tu pouvais te publier sur Internet. Mais après, tu n'avais pas forcément. Si c'était une personne qui postait un truc tous les 6 mois, il n'y avait pas forcément envie d'en vivre. Et enfin, il n'y avait pas forcément une boîte, il n'y avait pas forcément des commerciales, ça pouvait être sous pseudonyme. Donc, il fallait un système en fait de paiement qui corresponde à cette philosophie, quoi. On peut dire ça. Sur Napster, d'ailleurs, ils avaient commencé un peu à faire ça au début. En début, ils n'avaient pas fait ça, mais à un moment donné, il y avait des systèmes qui commençaient à arriver comme ça, de DRM, de Digital Rights Management, qui permettaient de envoyer des paiements à des gens sur des réseaux peer-to-peer, mais c'était pas au point, c'était centralisé. Parce que Napster, ça commence à pas mal marcher, hein, mais il y avait aussi, comme il s'appelle, Kim.com aussi, juste avant, lui, il avait fait Mega Upload, là, c'était un site de partage des fichiers aussi. Mais lui, juste avant de se faire arrêter, il avait aussi commencé à faire un système de production, quoi. Mais c'était pareil, quoi. Je veux dire, vu que c'était des trucs, à partir du moment où tu la diffusion Internet, qui est sous pseudo, c'est pas forcément des gens qui ont envie de mettre leur identité, qui, voilà. Donc, il fallait un système de paiement comme ça qui puisse être facilement mis en place, qui ne dépend pas des législations d'un pays, qui ne demande pas d'avoir un nom, prénom, adresse, etc. Ça, c'est un peu la volonté. Ça, c'est donc un des piliers de la culture, on va dire, cette culture-là de libertarien Internet qui vient un peu des hackers, même Wikileaks. Hein, je veux dire, vu qu'ils bon, ils avaient PayPal, mais par exemple, Wikileaks, ils se sont fait couper leur PayPal à un moment. Donc, il y avait clairement besoin d'un système de paiement comme ça, quoi. Pour l'Austrian Economics, ouais, bon, là, je vais vous renvoyer sur le livre blanc de l'autre, quoi, parce que bon, il a bien expliqué la différence, quoi, entre le système keynésien, mais bon. Après, alors, en tant que système d'investissement, on peut bien voir que. Alors, je peux aussi expliquer les smart contracts aussi rapidement, si on avec les NFT, les smart contracts. Alors, j'ai pas vraiment investi dans des cryptos, moi, ou des NFT, à vrai dire. Moi, j'ai surtout gagné des cryptos, en fait, quand j'étais sur Steam, parce que j'ai posté des tutoriaux, j'en ai gagné comme ça. J'ai fait un petit jeu NFT aussi récemment, mais bon, ça on dirait que la personne avec qui j'ai fait, ça s'est mal passé, mais bah, j'en ai un peu fait quand même, mais pour moi, c'est pas un investissement, de toute façon, je veux dire, ça a pas vraiment de sens d'investir en Bitcoin, quoi. Faut quand même rappeler ce que c'est que la base d'un investissement, c'est. Ouais, smart contract, ouais, bon, go. Ouais, bon. Alors, les smart contracts, l'idée à la base, c'est pareil, ça, c'est pas un truc qui était quand même inventé avec Bitcoin. C'est Nick Szabo qui a inventé ça dans les années 90. Bon, oui, le white paper original, je l'avais tout à l'heure, je l'ai mis quelque part là. Il faut bien voir aussi, c'est pareil que bon, les smart contracts, ça a été, enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qui arrivait après Bitcoin, c'était pas quand même super terrible, hein, mais Jack Bitcoin, c'était un peu bancal sur les bords. Et parce qu'en fait, alors un smart contract, ça se définit à la base donc sur cette définition-là. En gros, l'idée, bah, c'était un truc qui est assez basique, mais en fait, de dire qu'on pouvait en fait écrire en fait, d'écrire une interaction entre deux personnes conditionnelles sous forme, en gros, d'un programme. Mais lui, justement, il explique bien dans son truc qu'en fait, pour qu'un smart contract fonctionne bien, il faut qu'il y ait une sémantique claire, justement, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse facilement décrire ce que fait le contrat de manière claire, quoi. Justement, quand même, à mon avis, je suis pas seul à penser ça, que déjà, le langage qu'ils ont choisi dans Ethereum, c'était pas une très bonne idée, Solidity, quoi. Parce que justement, c'était pas un. C'est un langage qui est un peu similaire à JavaScript, c'est-à-dire, c'est un peu l'adage move fast, break everything, quoi. C'est-à-dire, coder vite, mais casse tout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des langages qui sont spécialement sécures à la base, qui n'ont pas une sémantique très claire. D'ailleurs, dès qu'ils ont sorti les DAO, il y a eu un hack qui a coûté, je sais plus, 50 millions dès le départ. Donc c'était pas une très bonne idée, mais en fait l'idée à la base, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir juste, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les transactions, elles prennent une coin d'un côté, elles leur sortent de l'autre. On appelle ça des tokens fongibles, c'est-à-dire que si on prend par on peut prendre deux entrées de 10 bitcoins et les mettre sur une sortie de 20 bitcoins, quoi. On peut pas vraiment différencier les bitcoins les uns des autres, quoi. On peut les empiler comme ça les uns les autres. Et l'idée des NFT, en fait, c'était donc non fongible token, c'était au lieu d'avoir juste une valeur numérique, en gros, qui va de 0 à 64 bits. C'est pas que les transactions, c'est aussi le coût d'avoir des données en fait aussi, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste des coins, on peut aussi écrire des données sur la blockchain et utiliser un contrat pour en fait, en fait à la base, ce qu'il faut bien voir, c'est que Ethereum quand ils l'ont fait, via Vitalik Buterin, à la base, avant de faire ça, il avait fait une espèce de startup qui était plus ou moins un scam, qui était un espèce d'ordinateur cloud, quoi, un espèce de cloud computing, quoi, c'est-à-dire de calcul décentralisé, quoi. Mais ça, c'était un peu un scam, machin. Mais en fait, lui, il était vraiment dans une idée de faire un système de calcul décentralisé, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était qu'au lieu de mettre juste des coins qui se transfèrent, il peut mettre des valeurs aussi sur la blockchain ou des données. Et qu'un smart contract, en gros, il va se baser sur ces données pour altérer, pour, on va dire, évaluer certaines conditions qui sont sur la blockchain ou pas, d'ailleurs, pour altérer ces données, quoi. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, un nombre, mettons, on pourrait prendre, je sais pas moi, le nombre d'un inventaire, par exemple, de combien il y a de bouteilles dans une boutique, par exemple, de dire que quand on en achète une, bam, ça décrémente le nombre, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses après qui utilisent des données et qui les modifient, quoi, avec un calcul. Mais là aussi, c'est pareil, il faut bien comprendre que la plupart des langages qu'ils ont utilisés, c'était des langages qu'on dit Turing complète, quoi. Les langages Turing complète, c'est-à-dire que ça contient, en gros, la définition, c'est que ça contient, en gros, des boucles et des branches. Le problème, c'est que ce genre de programme, on sait qu'ils peuvent ne pas terminer, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une boucle infinie et que c'est impossible de prouver techniquement que il n'y aura pas de boucle infinie dans le programme. Donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté un système, en plus du token Ethereum, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le gaz. C'est-à-dire que pour exécuter un smart contract, il faut y adjoindre du gaz, qui est une autre monnaie, en fait, et que chaque milliseconde d'exécution va coûter un certain nombre de gaz, et quand le gaz il arrive à zéro, le contrat il peut plus s'exécuter. Pour mettre une limite en fait sur le temps de calcul qu'un smart contract peut prendre, parce qu'ils ont pris un langage Turing complet, ce qui était déjà très intelligent. Mais bon, voilà, smart contract, c'est à peu près ça. Alors après, effectivement, alors ils ont défini ça avec les NFT, quoi. Alors les NFT, c'est les non-fungible tokens, donc le principe c'était d'avoir un certain nombre d'objets qui sont soit uniques, soit en quantité limitée, quoi. C'est-à-dire que un smart contract peut générer des NFT. Souvent, ça marche comme ça sur la plupart des blockchains. C'est-à-dire qu'il y a un smart contract qui va être programmé pour pouvoir générer tant de NFT, 1000 NFT, mettons. Ils vont soit être pareils ou soit différents selon les smart contracts, quoi. Mais donc, ça, c'est pareil. C'est un truc, parce que ce que je voulais expliquer, justement, c'est sur ce qu'il est, un bodage, là, je crois. Voilà, que justement ça, quand il y en aura de plus en plus, il sera de plus en plus cher. Voilà, parce que ça c'est une conception aussi qui est liée à l'économie des passionnistes, mais qui est en fait une fausse bonne idée, en fait, parce qu'en fait oui, ils ont théoriquement, ça se tient comme raisonnement, mais sauf que si tu fais ça, ça veut dire qu'en fait tu rentres dans une spirale déflationniste. Ça veut dire que les gens, ils vont pas avoir tendance à avoir envie de dépenser, parce que justement du fait qu'il vaut de plus en plus cher, et que donc tu peux pas avoir d'économie, tu peux pas avoir une monnaie déflationniste, en fait c'est une mauvaise idée, quoi. Je veux dire, parce que du coup les gens vont pas la dépenser, donc tu peux pas avoir d'économie qui est basée dessus, parce que les gens ils vont avoir tendance à la garder. Et qu'en plus, c'est quand même, en fait, en vérité, le fait d'accumuler des bitcoins en pensant que justement, vu que la rareté va s'augmenter, que tu vas pouvoir les vendre plus cher, ça s'appelle du market cornering. Et ça, Satoshi d'ailleurs en a parlé. Le market cornering, c'est une façon de manipuler le marché, un marché de commodité, typiquement un marché de commodité, c'est-à-dire c'est un peu un marché de matières premières, comme du bois ou de l'or. Et le fait que si tu si ça, il a pris un exemple qui était assez célèbre, c'est les Hunt Brothers, les frères Hunt, qui dans les années 60, je crois, ont voulu faire ça sur l'argent, sur le marché de l'argent, c'est-à-dire en acheter des quantités suffisantes. Bah, attends, il y a un, bah, je vais parler, c'est celui-là. Là, il explique là-dedans. Voilà, je le mets là. Il explique là-dedans le mécanisme du market cornering là. Tu vois, il montre très bien ce que ça a fait. Essayer de faire un screenshot du moment. Pour montrer ce que ça fait quand on fait du market cornering, quoi. C'est-à-dire que ça va faire monter le prix artificiellement, effectivement, parce qu'ils en achètent un nombre. Mais le problème, c'est que vu que le marché comme une limite d'achat, ils vont se retrouver avec leur argent qui est sur papier vaut super cher parce que c'est eux qui le contrôlent, mais qu'en fait, vu que personne peut l'acheter à ce prix-là ou veut l'acheter à ce prix-là, du coup, ça se repète la gueule après, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils avaient prévu assez rapidement, d'ailleurs. Que si les gens commençaient à avoir cette stratégie d'accumulation, ça allait faire des bulles et des bulles à répétition, quoi. Voilà, ça avait fait ça, quoi. Ils avaient essayé de faire exactement ça, c'est-à-dire de pas le dépenser et de le garder, d'accumuler l'or, l'argent. Alors ça a fait super monter le prix, ça a eu un crash, ils se sont tous ruinés, quoi. Ça, c'est ce que Satoshi avait répondu aux gens qui disaient, ouais, mais justement, il va y avoir des gens qui vont l'accumuler, qui vont faire du market cornering. Et il dit, le market cornering, dans toute l'histoire de l'économie, ça a jamais marché. Ça a toujours ruiné les gens qui ont essayé de le faire, quoi. Parce que ça en fait, c'est une forme de manipulation de marché qui crée une surévaluation du prix. Et qui ruine la personne parce que personne ne veut. Alors ça, alors voilà, une adresse Bitcoin, alors voilà. Vous explique quoi dans l'adresse? Est-ce que c'est une adresse? Alors l'adresse en premier, c'est en fait, alors ce que c'est l'adresse, c'est la clé publique. Donc c'est ce que j'expliquais avant sur les symétriques. Donc c'est une clé publique. Alors en premier, il rajoute un préfixe et un nombre qui est unique pour chaque blockchain. C'est pour pouvoir distinguer les adresses de différentes blockchains. Et ensuite, on ajoute les quatre premiers octets du hash de la clé publique. Ça permet comme ça de, si on change un nombre, ça permet de pouvoir vérifier que l'adresse est toujours la bonne. Et après, ça s'est transformé en base 58, comme j'explique au début, quoi. Voilà, c'est base 58 P tout script H. Format base 58, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire ça prend toutes les lettres de A à Z en minuscules majuscules plus les chiffres. Et ça peut encoder un chiffre du coup qui devrait prendre normalement 32 octets, donc 64 caractères en hexadécimal, ça va en prendre que beaucoup moins, quoi. Peut-être 4 fois moins à peu près, quoi. Donc ça paraît d'être compact, quoi. Le premier octet, il sera toujours fixe pour une blockchain. Après, tu as la clé publique et les quatre octets, les quatre premiers octets du hash 256 de la clé. P2P cache, c'est voilà, ça c'est les scripts classiques, quoi. C'est-à-dire c'est pay to public key hash. C'est-à-dire que au lieu d'enregistrer la clé publique dans la sortie de la transaction, on enregistre un hash de la clé publique, un double hash même, un hash 256 RIPMD. Et donc, quand on veut dépenser le bitcoin, il faut donner et la clé publique qui correspond au hash et une signature qui a été faite avec la clé privée qui correspond à la clé publique. Transaction 3,9, bah, ça, je suppose que c'est le. Je sais pas ce que c'est, transaction. Non, ok, ça, c'est le nombre de transactions qu'il y a dans le bloc, je pense, c'est ça. Voilà, non, c'est ça, c'est le nombre de transactions qui a été fait par la truc. Ok. Total receipt, bah ça c'est le nombre qui a été transféré. Total send, 0, c'est-à-dire que ça sent. Parce que si on prend pour une adresse, ça envoie 0. Les fees, c'est la différence qu'il y a entre ce qui a été envoyé normalement et ce qui a été reçu. Mais là, on voit pas ce qui a été envoyé. Mais normalement, total receive, il doit y avoir 0,746 bitcoins. C'est-à-dire que quand on transfère par exemple 70 bitcoins, et qu'on en ressort que 69, il y a un bitcoin, enfin deux fils, quoi. Après les chiffres en dessous, Ça, c'est des calculs. Alors, ça, c'est avec SegWit. Alors, le premier, c'est le SAT par byte, c'est-à-dire, ça calcule, en fait, le plus prix par octet, je suppose, ça va être ça. Mais vu qu'après, avec SegWit, ils ont fait un truc encore, parce que ça, c'est les améliorations de Bitcoin qui sont arrivées après. Ouais, alors ça, c'est, parce qu'après, ça, je suppose que c'est le weight. Oui, alors ça, je sais pas exactement ce que c'est, mais en fait, c'est un virtual bit, c'est ça, parce qu'en fait, ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté après, c'est SegWit. C'est-à-dire que SegWit, ça s'appelle Segregated Witness. C'est un système qu'ils ont fait, en fait, pour économiser de la place dans les blocs. La signature, elle est stockée séparément du bloc. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle n'est pas stockée dans le bloc, elle est stockée séparément. Ce qui est déjà un peu aussi bizarre, quoi. Mais bon. Ils ont fait ça, et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a l'idée que quand tu calcules en fait le poids de la transaction en rapport au bloc, il y a deux poids quoi en fait. Il y a le poids que la transaction contient avec la signature et sans quoi. Et ça fait des bits virtuels machin parce qu'en fait ça, je pourrais expliquer ça. Parce qu'en fait c'est ça, il y a parce que le Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a le poids en fait de la transaction avec la signature et sans la signature. Et weight, ça doit être le W, ça doit être weight unit, je pense. J'ai trouvé exactement. Voilà, c'est ça. Attends, je te mets le truc. L'explication. Ça, c'est lié à SegWit, ça. Qui était aussi un truc qui sont rajoutés à la byte pour rajouter Lightning Network, mais ça, c'est pareil, ça a fait un gros clash à la base. Le WU, c'est ça, quoi. C'est pour ça qu'il y a des bits virtuels et machin, parce qu'en fait, c'est calculé avec le poids, avec et sans, quoi. Et le témoin, c'est la signature, quoi, en gros. Ah, mais le problème, c'est enfin, le problème de ce système, en fait, je veux dire, d'accumuler des bitcoins. On va dire espérer en gagner plus, c'est qu'en fait, enfin, vu que Bitcoin, ça produit rien, il n'y a pas de travail derrière, il n'y a pas d'activité économique derrière, donc sa seule valeur, en fait, c'est en tant que monnaie. Je veux dire, c'est la seule valeur que ça a concrètement, quoi. Sinon, le reste, c'est pas un investissement, quoi. Je veux dire, ça rapporte rien. Ça, en plus, ça a plutôt même un jeu à somme négative, quoi. C'est-à-dire que vu qu'il y a quand même de l'argent qui sort pour payer le minage, en soi, c'est plus quelque chose qui perd de l'argent, quoi, en fait. Et donc en fait le problème de faire ça, c'est que ça fait des bulles à répétition en fait, quoi. C'est-à-dire que voilà, les gens vont l'accumuler, pour faire monter le prix. À un moment donné, le prix va être tellement élevé que personne ne va pouvoir l'acheter. Et ça va faire comme la courbe que j'ai mis en haut, quoi. Ça va se répéter la gueule. Et ça, c'est le Bitcoin, ça fait que des bulles depuis le départ, quoi. Ça augmente, ça redescend, mais de holder, en fait, c'est. Moi, je te conseille de lire franchement le bouquin d'Abus de Bitcoin, hein. Ça t'explique. Vraiment bien pourquoi utiliser Bitcoin comme un investissement, c'est pas une bonne idée, hein. C'est pas.
Je reprends le rôle d'Adaïs ce soir, place de Cap.
Vas-y.
Donc, ouais, donc ta chance, t'as fini donc, par rapport à ce que tu avais prévu de faire, de ce que j'ai vu. Donc, si on veut passer aux questions, vous pouvez donc intervenir en prenant la parole. Donc, si tout passe bien, bon, vous prenez comme vous voulez. Et si jamais il y a des ordres de parole, on mettra des signes pour prendre la parole. Donc, allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez mettre à l'écrit et je les dirai à l'oral, ou alors vous pouvez prendre directement la parole.
Mais avec les NFT, c'était pareil, en fait. Je veux dire, c'est un peu le même principe de créer une rareté artificielle qui crée, en fait, des bulles tout le temps, quoi. C'est-à-dire que ça les prix vont faire des montées fulgurantes et des descentes fulgurantes. Ça va jamais faire des trucs stables, en fait, quoi. S'il y a pas, en fait, de fondamentaux derrière qui créent vraiment qui créent de la valeur économique derrière. Parce qu'en fait, tu veux dire, si t'achètes une maison, par exemple, ok, tu vas avoir un chèque tous les mois qui va te rentrer parce que, machin. Parce que t'as des gens qui paient le loyer. Si tu achètes un champ, tu auras tous les ans une récolte. Tu vois, si t'as un bitcoin, bah, ton bitcoin, il va juste rester là, il va rien te rapporter. Il n'y a personne qui va te faire un chèque à la fin du mois pour que ça te rapporte, quoi. Et les NFT, c'est à peu près le même principe, en fait, hein, en vrai, quoi.
Du coup, ben, on va regarder un peu les questions. Il y avait deux, trois questions dans le question justement. Comment toi tu définirais le Bitcoin?
Comment ça? Quel niveau? Parce que c'est
Ben, en gros.
le problème, comme ça, c'est qu'en fait, maintenant, c'est un truc d'ailleurs que je remarque qui est assez marrant, c'est que selon la personne à qui tu parles, il va le définir différemment, tu vois. Par exemple, c'est assez marrant, tu vois. Si tu demandes à un banquier, il va voir le côté transaction. Si tu demandes à un financier, il va voir le côté trading. Si tu demandes à un programmeur, il va voir le côté base de données distribuée. En fait, parce que c'est trois aspects du truc, en fait, quoi. En fait, c'est trois aspects du truc. C'est un système, ce qu'ils appellent un ledger, quoi, c'est-à-dire un livre de compte distribué. Une monnaie et un système de transaction, quoi. C'est trois trucs là en même temps, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas le définir en comme une chose, quoi.
D'accord, donc pour toi en fait le Bitcoin a plusieurs facettes et
Voilà.
selon ce que tu cherches, tu vas peut-être plus le définir de certaines manières que d'autres.
Alors, tu sais, moi je me rappelle, par exemple, il y avait un invité de Thinkerview, là, c'était Antoven, là. Je crois qu'il s'appelle comme ça, un banquier, là. Sky lui avait demandé comment il comprenait Bitcoin. Lui, il avait compris le système de transaction irréversible, tu vois. Lui, c'est ce truc qu'il avait compris, tu vois. Par exemple, sur l'AfterSeeking, il y avait une autre personne qui s'appelle JST, qui est pourtant un programmeur dans les banques. Et lui, il avait compris le système base de données distribuée, tu vois. Enfin, tu vois, selon le domaine d'où tu viens, en fait, tu vas avoir une vision différente de la chose, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit rarement des gens qui arrivent à avoir une vision globale de la chose, quoi. Parce que selon le domaine d'où tu viens, tu vas en voir une partie, quoi. Et c'est ça, c'est d'ailleurs tout un peu entre guillemets, le génie de Bitcoin, hein, c'est que ça arrive à mélanger des théories de plusieurs domaines, entre l'économie, les bases de données distribuées et les émissions monétaires, d'en faire un tout complexe qui mélange vraiment les propriétés de proof of work, de cryptographie asymétrique et tout pour en faire un tout qui fonctionne, quoi. Avec une valeur économique du PoW et des transactions qui permettent de transférer finalement ce PoW d'une personne à l'autre. Et sur un réseau distribué peer-to-peer, quoi. C'est ça la complexité de la chose, quoi. C'est pour ça que c'est dur à expliquer, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très compliqué à expliquer, parce qu'il faut expliquer les trois aspects en même temps qui sont interconnectés entre eux, quoi.
Ok. Donc, par rapport à la blockchain, est-ce que toi aussi tu trouves que c'est. Tu pourrais donner une définition un peu plus technique, enfin, pas technique. Enfin, qu'est-ce que toi que tu penses que. Comment on pourrait définir une blockchain?
Alors une blockchain, alors déjà on enlève l'aspect monétaire déjà, mais alors après alors des blockchains il peut y avoir plusieurs sortes, mais ça c'était un article justement que Jeannot avait posté qui était sympathique d'ailleurs, qui montrait qu'en fait une blockchain publique pourrait pas fonctionner vraiment sans monnaie, quoi. Parce que vu qu'il faut qu'il y ait des mineurs qui minent, les mineurs il faut bien qu'ils soient rétribués pour payer leur électricité. Donc t'es quasiment obligé pour une blockchain publique d'avoir une monnaie, quoi. Donc t'es quasiment obligé d'avoir un bitcoin, en fait. Mais après il peut y avoir des blockchains qu'on dit des blockchains privées, qui sont là contrôlées par un parti privé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minage, quoi. Mais c'est un système, en fait, pour moi, c'est enfin, si on veut définir ce que c'est une blockchain, c'est un système qui permet de faire des preuves cryptographiques objectives, quoi. C'est un système de preuves, en fait, une blockchain, quoi. C'est un système qui permet de prouver que telle transaction est passée à telle date, que telle personne l'a signée à tel moment, quoi. C'est ça, en fait, hein, l'idée d'une blockchain. Et qu'on peut vérifier cette preuve avec un minimum de ressources, quoi. C'est-à-dire qu'on peut juste télécharger les entêtes de blocs qui contiennent les racines Merkel et vérifier qu'une transaction est bien passée dans ce bloc-là, a bien été signée par telle personne avec très peu de données, en fait. C'est tout l'intérêt du truc, quoi.
Après, il y avait Michoud qui demandait est-ce que toi, tu as des données sur l'impact au niveau environnemental CO2 des technologies blockchain et en
Alors, c'est vrai que je les
plus.
ai dans le bouquin que j'avais tout à l'heure. Attends, je suis sorti là. Attends, je vais aller chercher. Bon, essayer de retrouver. Ça y en avait là-dedans. Ouais, il y en a après. Hein. Bon, c'est monstrueux, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, est-ce que c'est monstrueux par rapport à ce qu'ils font ou est-ce que c'est juste monstrueux de manière absolue?
Bon, c'est énorme. Hein. Enfin, je veux dire, bah, surtout qu'en plus, je veux dire, le truc, c'est qu'en fait, faut voir, on va dire, d'où vient la valeur économique de ce coût environnemental, quoi. Où on est sa valeur économique, tu vois. Vu qu'aujourd'hui, c'est quand même une grosse majorité de la grosse spéculation qui sert à rien. C'est-à-dire que 95% de sa valeur, en gros, c'est des scams, en fait, quoi. C'est des méthodes d'arnaque, que ce soit des pump and dump, des greater food game, etc. Ce qui fait que c'est quand même de l'énergie qui est quand même pas mal gaspillée, quoi. En fait, d'ailleurs, je connais un physicien qui a fait un groupe Facebook qui dit qu'en fait, on devrait appeler ça, hein, une preuve de gaspillage, quoi. Et pas une preuve de travail. Parce qu'en fait,
Combien t'as consommé de ressources?
voilà, c'est ça, c'est pas un travail en fait, en sens physique, parce qu'un travail, c'est quelque chose qui est utile, quoi. Alors que
Oui.
là,
Ça, de
en
toute façon, parce
soi.
que ça revient en fait à la définition de minage, comme pour l'extraction de l'or avait une certaine valeur, parce que
Voilà.
justement c'était extrêmement rare. C'est le même principe pour ça.
Mais en fait, l'analogie est fausse, quoi, parce qu'en fait, c'est pas un coût qui est fait pour produire le Bitcoin, quoi. C'est un coût qui est fait pour résoudre le problème du général byzantin, quoi. Donc en fait, c'est pas un coût de production, quoi, en fait. Faut vraiment intégrer ça, quoi. Et vu qu'en fait l'énergie dépensée pour le minage, attends, vu que l'énergie qui est dépensée pour le minage, c'est directement lié à la valeur du Bitcoin. Avec la valeur du Bitcoin, franchement, c'est que de la manipulation, tu vois. Je veux dire, faut être clair, quoi. Il n'y a rien derrière, et donc c'est assez du. Ah voilà, Wasoumini, je l'ai là. Je Non, 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 Wasfumi, blablabla. Je vais copier le paragraphe, hein, comme ça je vais pas chercher. Tac. S'en sortir. Attends, j'essaie de faire un screenshot. En fait, ouais, le coût, bah, si ça dépend aussi avec quoi c'est miné, etc. Donc, y a pas, enfin, c'est pas un truc aussi simple que ça à calculer, mais.
Bon, après, si t'as la référence du livre, on peut aller chercher.
Ouais, bah, j'ai mis dans le salon crypto. C'est un truc que j'ai posté.
Ok. Question suivante, Twilight Spark, qui demande le hash, est-ce qu'on peut en faire ça sur des switches manageables? Apparemment, il y en avait plusieurs. Et deux, enfin, je savais pas qu'il y en avait plusieurs.
Une switch, genre des routeurs.
Je sais pas, Twilight, si tu peux un peu préciser. En attendant, on passe à la question suivante. Que c'était fait. Question de Hassan. Comment concilier finances responsables et crypto-monnaie? Si tu as des idées, un avis là-dessus?
Ben, le problème, c'est que déjà, la crypto-monnaie, c'est pas vraiment de la finance, quoi, en fait, en soi. Donc, déjà, je veux dire, c'est enfin, normalement, la finance, Justement, enfin, justement, dans le bouquin, là aussi, dans ce même bouquin, il explique bien vraiment la différence entre de la finance. Qu'on pense en termes de finance, c'est-à-dire qu'on, justement, il fait la différence entre investissement et casino, ce qu'il appelle le capitalisme casino, quoi. Alors que la finance, c'est un business model. Tu dis, j'investis tant, ça va me rapporter tant, il y aura tant de revenus au bout de tant de temps, quoi. Je veux dire, avec Bitcoin, il n'y a pas de revenus. Donc, de toute façon, c'est pas de la finance, déjà. Donc, ça peut pas être de la finance. Il n'y a aucun moyen de finance responsable avec des crypto-monnaies, en fait, quoi. En idée, quoi.
Ok.
Enfin, mais même la DeFi, tout ça, là, c'est, enfin, il y a une confusion globale entre si le token, c'est le produit de l'entreprise, ou si c'est une espèce d'action qui va monter. C'est normalement un produit, c'est-à-dire qu'on l'a dans, c'est comme une communauté, genre je sais pas, une entreprise qui va produire des voitures. Bon, la voiture, elle va être relativement à prix fixe, tu vois. Seulement, plus t'en vends, plus ça va faire des revenus dans la boîte et plus ça va augmenter le truc. Mais le produit, c'est la voiture, l'action, c'est une action, c'est pas la même chose, quoi. Alors que là, on a toujours du mal à distinguer si le token, c'est un produit ou si c'est une action de la boîte, quoi, tu vois. Parce qu'ils vendent ça comme une action au début, mais en fait, finalement, c'est le produit, donc c'est très compliqué, hein. Mais sinon, faudrait vraiment de la grosse régulation, hein. Je veux dire, ça peut pas tellement s'auto-réguler, hein. Enfin, j'en vois bien comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est pas un truc de finance, hein, bah, c'est bien ça, hein, je veux dire qu'il faut voir. C'est pas, en fait, parce qu'il faut bien comprendre que, enfin, ça, ils expliquent ça aussi bien dans le bouquin, c'est que, je veux dire, quand on veut estimer, on va dire, la qualité d'un produit financier, on va dire, c'est qu'on peut facilement prévoir ses fluctuations de prix ou son prix idéal, qu'on peut estimer facilement un prix idéal, quoi. Et un prix ou voir les fluctuations, quoi. Ça, c'est un produit financier idéal. Je veux dire, là, vu que dans Bitcoin, il n'y a pas de revenus, déjà, à la base, on sait que ça va être des manipulations, des Ponzi et compagnie, qui fait qu'en fait, on peut pas vraiment estimer son prix. Donc, c'est pas un bon instrument financier, à moins que, alors après, pour avoir que ça devienne vraiment un instrument financier, il faudrait qu'il y ait un écosystème de blockchain derrière qui permet de voir les intentions d'achat, qu'on ait un truc plus clair, pas juste une transaction, mais aussi tout ce qu'il y a autour en termes de qui achète, à quoi la transaction correspond. Parce que les transactions, c'est complètement anonyme et c'est non qualifié, quoi. Je veux dire, on peut pas savoir si c'est une transaction d'achat d'une action, si c'est une transaction d'achat d'un produit. Il faudrait qu'il y ait tout un écosystème autour pour savoir qu'est-ce que les gens font avec la transaction et d'avoir plus de métadonnées, en fait, sur les transactions. D'avoir plus de transparence sur la façon dont ces fonds sont gérés par les boîtes, parce que la plupart du temps, il n'y a aucune transparence en vrai, hein. Sur ce côté-là, on peut dire, ah ouais, on voit les transactions et tout, mais vu que les adresses, elles peuvent être remixées, qu'on sait pas exactement, enfin, on sait jamais vraiment ce que vont faire les boîtes avec l'argent. D'ailleurs, souvent, ils le retirent assez rapidement dans des paradis fiscaux. Ça, ils montrent bien ça dans le bouquin, hein, que la plupart du temps, quand ils font des ICO, l'argent, il est retiré très rapidement, il part dans des paradis fiscaux et on sait pas où il va, quoi. Et le token, il se pète la gueule après, quoi. Donc il manquerait vraiment un tas d'outils pour vraiment faire un outil financier performant, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse estimer, on va dire, si on considère que c'est de la finance, c'est-à-dire que ce serait qu'un token, ce serait vraiment une part dans une société, quoi. Ce serait pas un truc qu'on va utiliser pour payer, quoi. Ce serait vraiment un outil dans une part dans une société. Et il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Quelle est l'équipe, quels sont les objectifs, quels sont les marchés, mais pas du token en lui-même, hein, de ce que va produire la boîte avec l'argent que tu as investi avec ton token. Et ça, c'est un truc qui est complètement absent aujourd'hui des blockchains, quoi.
Du coup, j'engage avec la question suivante, c'est pour toi, la blockchain, ça n'aura pas d'utilité dans le monde réel de manière mainstream?
Bah, mainstream, pour moi, c'est surtout adapté à l'économie numérique, hein. Je veux dire, c'est clair. C'est assez adapté au système où tu peux prouver déjà, enfin, comment dire, que le produit que tu vas échanger avec une blockchain, c'est un truc qui est numérique. Parce que là, tu peux le transférer, tu peux prouver déjà que le produit est accessible à la personne au moment du paiement, comme un smart contract. Si c'est des données, tu peux envoyer une clé de cryptage ou je sais pas pour accéder à une donnée numérique. Si c'est un bien physique, le problème c'est que la blockchain te permet pas de vérifier vraiment le bien physique. Par exemple, pour de l'immobilier, parce que je vois souvent ça avec l'immobilier. Le problème c'est que si tu achètes une maison en Californie, t'as aucun moyen de vérifier si la maison elle est bien là, si elle a bien été réparée, si elle est bien dans l'état qu'elle est, si elle a bien la valeur qu'elle a. Ça, personne ne peut le vérifier. Enfin, faut être sur place, quoi. Et donc, vu que l'idée d'une blockchain, c'est un truc mondial avec des propriétés, enfin, tout ce qui fait que une blockchain est trustless, on va dire, c'est qu'il y a des propriétés cryptographiques sur des données numériques, quoi. Genre, tu peux pas prouver cryptographiquement qu'une maison, elle a bien la valeur que tu estimes qu'elle a, quoi. Après, mainstream, bah, pour moi, tu vois, enfin, je veux dire, justement, parce que tout début, là, comparé justement de la courbe déflationniste et que ça vaudra de plus cher, quoi. Ça, c'est typiquement genre le truc. que pour les monnaies mainstream, c'est, enfin, je veux dire, ça, vous pouvez regarder le livre blanc d'hier là sur les monnaies entre l'économie keynésienne et l'économie autrichienne. Bitcoin, ce serait plus classé dans l'économie autrichienne, même très, très, très dans l'économie autrichienne. Et ça fonctionne pas pour une économie réelle pour plein de raisons qui sont détaillées dans le bouquin suspensionné. Parce qu'en fait, déjà, quand une économie va être en croissance, je veux dire, il y a des moments, il va falloir émettre de la masse monétaire. Tu vois, c'est pour ça que toutes les économies mondiales, grosso modo, sont keynésiennes, hein, parce qu'il y a toujours des moments où il faut émettre de l'argent.
Keynésienne, tu peux juste développer un peu?
Eh ben, keynésienne, ça veut dire qu'en gros, il y a une banque centrale qui peut de temps en temps émettre de plus d'argent. Quand il y a des crises de liquidité ou quoi, ça peut émettre. Tu vois, alors que les autrichiennes, c'est justement basé sur, ils sont plus sur un truc d'étalon or, de masse statique, de monnaie intrinsèque, tu vois, de valeur intrinsèque de l'argent, alors qu'en fait, l'argent, ça n'a pas de valeur intrinsèque, quoi. Et vu Bitcoin, c'est un truc déflationniste, ça aurait plein de mal à fonctionner comme une monnaie mainstream qui pourrait remplacer l'euro ou le dollar, quoi. C'est très peu, enfin, ça serait pas une bonne monnaie pour ça, hein. John Nash aussi, il s'est exprimé là-dessus. Parce que John Nash, il écrit une théorie sur la monnaie idéale, en fait. Pour lui, en fait, on devrait un jour arriver à un système où plusieurs monnaies pourraient entrer en compétition pour différents marchés. Et qu'il pourrait y avoir une espèce de libre marché des monnaies, en fait, quoi. Et que ça pourrait pouvoir estimer quelle monnaie a les meilleurs critères, quoi. Et lui, il avait été quand même assez critique de Bitcoin, justement, pour cet aspect déflationniste. Et Elon Musk, d'ailleurs, aussi, a critiqué ça, que c'est déflationniste to the fault, quoi. Et justement, dès le début, sur les forums Bitcoin, il y a un mec qui avait proposé qu'au lieu, justement, d'avoir une courbe d'émission, on va dire, fixe par bloc, qu'en fait, que le nombre de Bitcoin émis soit proportionnel à la difficulté qui a été utilisée pour miner le bloc. C'est-à-dire que s'il y a 3 mineurs sur le bloc, tu émets un bitcoin. S'il y a 6 mineurs, tu émets 2 bitcoins. Plus il y a de mineurs, plus il y a de bitcoins émis, quoi. Ce qui fait que là, il n'y a pas ce côté déflationniste. Il y aura une courbe d'émission qui serait plus proche, en fait, d'une commodité normale, quoi. C'est-à-dire que plus il y a de travailleurs, plus il y a de production. Alors que là, avec le bitcoin, il n'y a pas cette équation de plus il y a de travailleurs, plus il y a de production. Ce qui n'est pas très logique en termes économiques, en vrai. Et que là, ça pourrait peut-être être un truc un peu plus stable qui serait aligné, en tout cas, sur le prix de l'énergie, qui est un marqueur économique acceptable, quoi. Je veux dire, le prix de l'énergie, le prix de l'électricité, ça reste un marqueur économique qui peut être intéressant. Mais là, comme c'est fait là, pas tellement, quoi. Pour le mainstream, ça serait compliqué, quoi.
Ok. Il y a Black Jason, je pense que c'est un petit troll qui parle, mais qui demande. Le Parisien va faire à la rentrée donc des NFT de ses unes de journaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Oh bah, tout le monde en profite un peu là, parce qu'il y a un hype. Mais en fait, enfin, je veux dire, tous ceux qui ont essayé de faire ça en vrai se sont plantés. Hein. Ubisoft, ils ont essayé de faire ça, mais il y en a plein des trucs comme ça. Là, il y avait le mec qui a posté dans le crypto aussi là, le surf to earn. Là, ils font des. Je sais pas pourquoi en fait il y a autant de trucs mainstream comme ça qui essayent de faire des NFT comme la chaîne là, sur BFM, la Crypto Grand Angle. Là, eux, ils chient à fond, tu vois. Et je veux dire, je sais pas, ils en font vachement la pub, je trouve. Hein. Il y en a plein comme ça, hein. Bloomberg aussi. Mon avis, c'est des mecs ouais, qui ont dû investir là-dedans, ou je sais pas, qu'on lui dit, ah, bah, je sais pas. Je vois pas.
Les bulles économiques, comme tu dis, ils surfent là-dessus. Question suivante de Borgo. Je suis très curieux de connaître ton point de vue sur l'adoption du Bitcoin par El Salvador. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, je sais pas. Hein, apparemment, déjà, l'adoption, enfin, je sais pas, parce que c'est pareil, il y a des sources contradictoires là-dessus. Il y en a qui disent que ça marche, d'autres que ça marche pas, mais apparemment, quand même, la plupart des sources, on va dire que déjà, il n'y a pas eu vraiment d'adoption autant que ça. Que déjà, franchement, j'avais vu, bah, au moment où ça s'est pété la gueule, il y a un mec qui avait fait un tweet, je veux dire, un tiers des posts, c'était des mecs qui disaient, ouais, le wallet, il marche pas, on s'est fait voler nos bitcoins, machin. Alors, c'est pareil, bon, c'est dur à vérifier le chiffre, mais déjà, apparemment, le wallet qu'ils ont, parce qu'apparemment, c'est un wallet d'État qui a été fait. Alors, le wallet, il marche pas. Enfin, apparemment, il y a plein de bugs avec, il y a des mecs qui perdent leur bitcoin. L'adoption, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment aussi phénoménale que ça. En vrai, il faudrait avoir des vrais chiffres, mais a priori, c'est pas aussi spectaculaire que ça, en fait. Et que c'est un coup de casino aussi, c'est pareil, je veux dire, adossé. Parce que, en fait, le problème, parce qu'effectivement, il y a toutes ces théories, en fait, que le Bitcoin était censé banquer les unbankable, quoi. Et donc, aider les pays du tiers-monde qui n'ont pas de banque centrale stable, machin. Mais, le problème, c'est que penser comme ça, je veux dire, déjà, la plupart du temps, en fait, ça va des free riders quelque part du truc, parce que, je veux dire, le trotteur du minage, il vient pas d'eux. Les baleines, c'est pas eux. Donc, ils sont quand même à la merci de grosses manipulations de marché. Et de baisse, de chute de minage et compagnie qui contrôlent absolument pas, quoi.
Tu vas développer les baleines.
Les baleines, c'est bah, des comment dire des comment dire des actionnaires majoritaires, on pourrait dire quoi, c'est des gens qui ont beaucoup de Bitcoin par rapport à la moyenne quoi.
Et donc l'impact par rapport au Bitcoin?
Bah, qu'ils peuvent vendre quand ils veulent, acheter quand ils veulent, bah, comme Elon Musk, tu vois, il peut par une pompe, il fait un tweet, le truc il fait x2, il refait un tweet, ça redivise par deux. Et que voilà, pour un pays, on va dire, d'une économie modeste, qui n'est pas une baleine, justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un, qui possède pas beaucoup de bitcoins sur le truc, il est à la merci quand même de grosses manipulations de marché, quoi. Contre lesquelles il pourra rien faire, quoi. Et pareil, le minage, bon, ça peut quand même aussi, je veux dire, vu que les poules de minage sont quand même assez centralisées, j'ai même pas parlé des poules, bon, c'est pas grave. Mais bref, vu que les poules de minage sont, enfin, vu que le minage est quand même relativement centralisé aujourd'hui, il pourrait y avoir des malversations à ce niveau-là. Si vraiment une grosse économie s'y mettait comme ça, enfin, genre, si par un pays mettait sa propre blockchain, ils arriveraient à peu près, peut-être pas en mode complètement privé, mais un peu comme ce qu'ils veulent faire avec les monnaies numériques, en fait, quoi. Tu vois, ou en tout cas qu'ils arriveraient à se démerder pour avoir un contrôle majoritaire sur le minage et
D'ailleurs,
en tout cas on va dire autoriser peut-être au moins que les citoyens du pays à miner et qu'ils aient quand même qu'ils s'arrangent quand même pour que la monnaie parte pas dans tous les sens et que ça aille pas dans des baleines d'un autre pays qui peuvent les couler en 2 secondes quoi. Là peut-être quoi. Mais sur Bitcoin c'est pas enfin c'est quand même pas un bon pari à mon avis hein, parce qu'ils contrôlent pas grand-chose en fait quoi. Déjà, nous, tu vois, on se plaint déjà souvent, on entend souvent, on s'est plaint de l'euro, qu'on a plus le contrôle sur notre monnaie, machin truc. Là, c'est encore pire, quoi. C'est encore 5 fois pire.
du coup, par rapport à l'identité numérique, est-ce que tu penses que les NFT, il n'y a pas un côté tracking dans les supply chains?
Pourquoi pas, hein, je veux dire, ouais, ça peut. Fin, après, fin, les blockchains, c'est surtout utile quand il y a vraiment possiblement des conflits d'intérêts ou des. Où il y a vraiment un pas de confiance quoi. Je veux dire, quand t'es dans un climat de confiance régulier t'as pas trop besoin de blockchain quoi. Mais en soi ça pourrait servir pour ça ouais.
Et
Parce que les
justement,
NFT en fait
bah vas-y, vas-y.
le problème des NFT c'est que ça enfin c'est pareil enfin, ce que le problème aujourd'hui c'est que comme beaucoup de choses des blockchains c'est que le terme s'est fait on va dire encapsulé dans une logique économique qui est pas forcément celle-là quoi. C'est-à-dire que les NFT quand on pense NFT on pense collection en série limitée, avec une rareté créée artificiellement, avec comment dire un côté spéculatif quoi. Alors mais bon ça c'est le côté NFT tel qu'on le voit promu en général avec un côté je l'achète et puis il va monter plus tard comme un POG ou comme un truc comme un collector quoi. Mais si on pense effectivement juste données écrites sur une blockchain qui peut être transférable avec tout le côté preuve cryptographique, ça peut être utile hein. Mais c'est pareil le problème des blockchains c'est toujours pareil c'est que genre, comment tu vérifies en fait que ce qu'il y a sur la blockchain est vraiment réel quoi? Parce que toute la question elle est là quoi. À partir du moment où t'es pas sur une économie numérique, je veux dire comment tu vérifies que ce qu'il y a sur la blockchain est vraiment en adéquation avec ce qu'il y a sur place quoi? Faut forcément une autorité sur place qui peut pas être vérifiée par tout le monde. Ou alors c'est des supply chain numériques quoi, de reprovendre je sais pas des objets numériques ou je ne sais pas des trucs qui sont vraiment numérisés quoi.
Alors je précise un petit peu ce que le propos de Tony. Alors si je comprends bien, c'est les NFT dans le sens. Je crois qu'il y a eu il y a quelques temps des idées comme quoi il fallait faire des NFT pour les cartes d'identité, ce genre de choses, des choses d'identité personnelle.
Bah, la problématique de ça, ce que j'ai expliqué déjà sur le salon, en plus, c'est que bon, une carte d'identité, ça n'a pas de valeur commerciale, quoi. Je veux dire, ça, je veux dire, tu vas pas en avoir deux parce que t'es plus riche. Et en plus, je veux dire, la validité de la carte d'identité dépend entièrement de l'État qui les émet, quoi. Je veux dire, donc, à partir du moment où c'est pareil, que t'arrives sur un truc où t'as une autorité centralisée déjà, qui est l'État pour les émettre. Donc, de toute façon, le maximum que tu peux vérifier, c'est si c'est bien l'État qui l'a émis. Et que derrière, il n'y a pas d'enjeu économique spécialement à les émettre et à les manipuler. Ça, enfin, pour une blockchain publique, c'est pas un bon système, quoi. Mais après, de la cryptographie asymétrique pour ça, ouais, enfin, tout système de crypto pourrait être utilisé avec des certificats, tout un tas de choses qui pourraient être faites à ce niveau-là pour qu'on puisse vérifier l'autorité. Mais une blockchain publique, il n'y en a pas besoin pour ça, quoi. Ça n'a pas d'intérêt, quoi. Parce que ça n'a pas de valeur économique. Et l'autorité de vérification, elle est centralisée, quoi. De toute façon.
Alors, d'après toi, est-ce que donc blockchain, crypto et Bitcoin, ça peut aider à une économie plus équitable et solidaire et respectueuse de l'environnement ou c'est incompatible?
Bah, en tout cas, pour l'instant, justement, dans le bouquin encore, il y a des chiffres là qui disent qu'apparemment, bah, on peut facilement voir que ceux qui sont riches sur les blockchains, ils étaient déjà riches avant, et que ça a plutôt eu tendance à les enrichir, quoi, en vrai, quoi. c'est ça pas vraiment ça a pas vraiment eu cet effet-là quoi. Je veux dire la plupart. Genre, tu vois, sur Steam, par exemple, qui est un des trucs que j'avais plus suivi, parce qu'en plus, sur Steam, il y avait vraiment des mecs qui analysaient le truc bien, tu vois. Donc, sur Steam, on voyait bien qu'il y avait quand même, ouais, clairement, je veux dire, le blogueur de base, il gagnait un tout petit peu, il gagnait quelques euros, et celui qui avait investi une grosse masse, il gagnait à fond, qui était Witness, là, c'était pire. En fait, le taux de Gini, là, je sais plus qui s'est parlé de ça, mais il y a ce qu'on appelle le taux de Gini, là, je sais pas si tu vois ce que c'est. L'indice de Gini.
Non.
C'est un indice qui permet de calculer l'inégalité d'une économie. Indice de et ils avaient calculé ça sur les blockchains, ouais, c'est assez bas. Hein. Enfin, c'est un truc qui est encore pire qu'un pays du tiers-monde. Hein. Enfin, c'est pas du tout bien réparti, quoi.
Okay, petite question de Soros. Quels sont les nouveaux métiers qui sont ou qui seront créés par justement la blockchain? Est-ce que ça a de l'avenir?
Ben, c'est pareil, je veux dire. Sûrement, peut-être un peu quelque part, même si on a encore du mal à voir quoi, mais j'ai envie de dire, c'est quand j'entends ce terme d'entrepreneur Bitcoin, tu vois, c'est comme si on disait entrepreneur euro, tu vois, je veux dire ça, ou entrepreneur dollar, tu vois, je veux dire, t'es pas entrepreneur dans une monnaie, tu vois, je veux dire, t'es entrepreneur pour échanger de la monnaie, tu vois. Ce qui fait que Bitcoin, c'est pas censé faire gagner de l'argent en soi, tu vois, c'est censé faciliter des échanges entre des mecs qui sont déjà productifs, quoi. Ce qui fait que en plus, je veux dire, aujourd'hui, technologiquement, je pense qu'on a déjà quand même à peu près ce qu'il faut en termes de technologie blockchain. Donc, vraiment des emplois blockchain, il faudrait trouver des business models, hein, toujours pareil. Hein, je veux dire, après, c'est les métiers entrepreneurs hein, de trouver des business models. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça a plus un côté dot-com, un peu là, comme la pub dot-com, comme souvent c'est comparé. C'est-à-dire que mais là, c'est même encore pire parce que la plupart du temps, les ICO, ils n'ont même pas de modèle de revenu quoi, dedans. Quoi, donc, je veux dire, je sais pas d'où viendraient les revenus en fait d'une blockchain quoi. C'est la question qu'il faut se poser quoi. Autre que d'acheter le token pour l'accumuler pour le revendre plus cher dans un espèce de greater full game quoi. Mais après il y a sûrement des trucs à trouver hein, justement parce que bah c'est le côté preuve cryptographique en fait qui est intéressant là-dedans. Hein. C'est-à-dire peut-être pour l'hébergement pardon. Par exemple pour les clouds on voit ça. Enfin c'est un truc qu'on avait parlé tu vois. Ils ont un problème en ce moment avec les clouds. C'est que c'est tellement énorme que quand il y a un fichier corrompu, par exemple, ils n'arrivent même pas vraiment à savoir si le fichier a été corrompu ou pas, quoi. Tu vois, si une image qui a été corrompue, à un moment, ils ont pas de timing, ils peuvent même pas vérifier, quoi. Alors qu'une blockchain, au moins, ça permettrait justement d'avoir exactement à quel moment ça a été uploadé, le hash du fichier, et de pouvoir vérifier vraiment concrètement si le fichier est bon ou pas, quoi. Pour tous les fichiers qui sont hébergés quelque part, quoi. Ça pourrait être assez intéressant, tu vois. Pour l'hébergement comme ça ou pour tous les trucs aussi de transfert de propriété, il y a peut-être des trucs, mais c'est pareil, pour que ça fonctionne, faut bien voir que ce soit des trucs de propriété qui aient déjà une valeur économique, qui soit estimable relativement objectivement, quoi. Ce qui n'est pas déjà le cas de tout, quoi. Mais bon, il y a sûrement des trucs qui vont être trouvés. Hein. Mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques et de ventes de pipeaux, quoi. Faut être clair, quoi. À part si on veut faire comment dire carrière dans les Ponzi ou dans les pump and dump.
Je reviens sur les NFT et en fait les supply chain. Tu as donc justement cette historique de ce qui a été transmis. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aurait une sorte de standardisation de la supply chain qui permettrait justement d'avoir une plus grande transparence, un plus grand suivi des transactions?
Bah, des transactions, ouais, mais des stocks, c'est toujours pareil, quoi, comme enfin. Parce que le principe du blockchain, c'est que tout le monde peut vérifier des propriétés, quoi. Mais comme c'est un truc qui est géographique, enfin, une blockchain, si on parle d'une blockchain au niveau mondial, ça apportera pas grand-chose pour vérifier que le produit est bien là. Je veux dire, pareil, enfin, c'est une question qui a été posée sur un blog de 2015 là, sur Multichain, qui posait la question de, par exemple, si à un moment donné, la blockchain dit un truc faux. C'est une blockchain publique à qui tu portes plainte pour la perte économique associée, quoi. Après, c'est la question du truc, c'est qui est responsable. C'est pour ça que j'avais parlé aussi à un gars qui bossait au Parlement européen, qui oui, ça avait posé des gros problèmes à la blockchain pour ces mêmes raisons, parce qu'il n'y a pas de responsable, quoi. Il n'y a pas de responsable légal de quelques dommages qui pourraient arriver, quoi. Donc à partir du moment où on ne peut pas vraiment prouver cryptographiquement les propriétés qui sont dessus, ça risque de faire des problèmes, quoi. Et vu qu'il n'y a pas de responsable, qu'on ne peut pas annuler les transactions, qu'il n'y a pas de responsable légal et qu'on ne peut pas annuler les transactions, C'est quand même compliqué, quand même. Mais bon, il y a peut-être des trucs qu'ils vont trouver, hein, c'est pareil, mais c'est vrai que c'est intéressant, Gérard, de dire effectivement qu'on pourrait tracer l'origine des projets et tout, mais c'est pas aussi simple, quoi. Je veux dire, il faudrait trouver d'autres systèmes après pour vérifier les informations qui sont dessus, quoi.
Et du coup, ces informations-là, c'est qui émet? C'est celui qui valide le Bitcoin ou c'est celui qui l'émet?
En ce moment sur Bitcoin.
En fait, bon, j'ai des informations apparemment sur le Bitcoin. Et en fait, elles viennent d'où ces informations? C'est qui l'émet? Enfin, style le time code, ce genre de choses?
Alors pour ce qui est des transactions, c'est la personne qui émet la transaction qui la génère, hein. Donc toutes les informations qu'elle a dans la transaction, c'est la personne qui l'a créée, qui la met. Et pour être en tête de bloc, c'est le mineur, quoi. C'est celui qui génère le bloc. Et le bloc après inclut des transactions des gens, quoi.
Effectivement, pour les NFT, ce serait celui qui émettrait les NFT, style l'administration pour la carte d'identité, il dirait voilà, je mets ces informations-là, et comme j'ai l'autorité donc administrative, je valide le premier bloc. Ce serait ça l'idée?
Tu prends un truc comme ça, mais à partir du moment où toute autorité est centralisée dans une source, genre la blockchain sert quasiment à rien, tu vois. En fait, vu qu'il n'y a pas de valeur économique et que toute autorité est mise dans une source, tu peux aussi bien faire un certificat numérique et tu as la même chose, quoi. T'as pas besoin de blockchain. Vu qu'en plus, c'est pas transférable, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, enfin, à moins qu'une carte d'identité, c'est quand même spécifique, tu vois. Je veux dire, parce que c'est personnel, tu peux en avoir qu'une, tu peux pas la transférer, tu peux pas en avoir plusieurs. Enfin, je veux dire, ça colle pas bien au modèle blockchain, quoi. Et si en plus, vu qu'il n'y a pas d'intérêt économique, qu'est-ce qui récompensera les mineurs pour qu'ils se cassent le cul, pour qu'ils dépensent de l'argent en fait pour miner la blockchain, vu qu'ils vont rien gagner. Parce qu'on peut pas offrir des cartes d'identité aux gens qui minent, quoi. Donc de toute façon, enfin, faut bien qu'il y ait un revenu qui tombe quelque part. Donc si après c'est l'État qui mine la blockchain de manière centralisée avec une source de trust, une source de confiance centralisée, bon, ça sert à rien de faire une blockchain, hein. Si tu peux avoir d'autres systèmes de numérique avec des systèmes de hash ou de trucs comme ça qui seront pas ou des signatures numériques avec des certificats et des hash qui seront pas sur une blockchain, quoi. Ça, la blockchain, c'est un intérêt à partir du moment où il y a un truc qui est transférable, quoi, déjà, quoi. Regardez tout l'historique des transferts, quoi. Et que ça a une valeur économique qui puisse être transférée à des mineurs, quoi. Pour tout ce qui est documents et tout, moi j'y crois pas tellement quand même, hein.
Ok, petite dernière question, je pense, de Michotte. Donc, les cryptos, en particulier le Bitcoin, est-ce qu'on ne marcherait pas sur la tête avec tout ce qui se passe?
Ben, bon, sur la tête, ouais, beaucoup le diraient, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je pense que ça a un peu une utilité, mais effectivement, bah, pour des trucs numériques qui seraient pas des valeurs énormes et qui là, c'est beaucoup trop. Je veux dire, c'est beaucoup trop élevé. Genre, rien que, je veux dire, qu'on compare le prix d'un Bitcoin à n'importe quelle autre blockchain qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, quoi. Enfin, là, il est à 20 000, un truc comme ça. Je veux dire, la plupart des blockchains, elles sont à 10 dollars, elles font grosso modo la même chose, voire peut-être mieux, quoi. Donc, on voit bien qu'il y a un truc qui est effectivement dément aujourd'hui dans les cryptos. C'est un phénomène de market mania, quoi, de mania des marchés, quoi, clairement. Après, ça peut avoir d'utilité quand même, hein. Enfin, je veux dire, justement, pour toute l'économie numérique. Pour moi, à partir du moment où, tu dis, parce que Bitcoin, pourquoi ça fonctionne bien? Parce que le Bitcoin est émis par la blockchain, que c'est défini dans le protocole et que tout le monde peut vérifier que les Bitcoins émis correspondent au protocole, parce que c'est un truc qui est un peu autonome, quoi, comme on pourrait dire, autosuffisant, j'ai envie de dire, quoi, tu vois. Mais à partir du moment où, effectivement, tu veux intégrer les trucs extérieurs, ça fonctionnera mal, quoi. Et aujourd'hui, ils vendent tout un tas de pipeaux. Enfin, je veux dire, c'est clair, quand tu dis des ICO, là, depuis les ICO en 2017, les DAO, machin, la DeFi et tout, ouais, je pense que c'est assez taré, quoi, quand même. Mais il suffit de lire le bouquin, hein, franchement, il faut lire le bouquin là, que j'ai mis dans la crypto, franchement, ça montre tout, vraiment tout le. Tout, tu sais, il cite même, en fait, Ron Hubbard, tu vois, le mec qui a fait la scientologie, tu vois, il compare à ça presque à la scientologie, tu vois. C'est-à-dire que il cite Ron Hubbard en disant, si tu veux faire fortune, vends pas de la science-fiction, vends une religion, quoi, tu vois. Et il montre bien que je sais pas, que le Bitcoin, c'est limite le Messie, quoi. Ça va tout sauver, ça va résoudre tous les problèmes. Alors que bon, pas vraiment, quoi, en vrai, quoi. Enfin, il y a vraiment un aspect un peu, ouais, un peu fou, quoi, dans les cryptos. Hein. On va pas se mentir. Hein. Enfin, il y a beaucoup de folie autour, quoi. Surtout qu'en plus, c'est gargantuesque, hein. C'est des trillions, je sais pas combien, des 3 trillions, je crois, maintenant, hein, des dires comme ça. Pour grosso modo rien, quoi, je veux dire, tu vois, enfin, donc ça sert même pas à acheter une baguette de pain, quoi, je veux dire. c'est assez ouais. Aujourd'hui, là, il y a clairement une mania, quoi. Il y a clairement une folie, quoi. Après, on va voir ce qui va en sortir. Il y a sûrement des trucs qui vont en sortir à un moment, mais pour l'instant, ouais.
Moi, j'avais une petite question technique, c'est est-ce que tu sais comment on peut découper le Bitcoin parce que tu as un hash, on va dire un Bitcoin, et je vais en utiliser que bah, 0,5. Comment je fais pour le couper?
Et ben en fait, c'est ce qu'ils appellent l'exchange d'adresse, quoi. C'est-à-dire que tu as un Bitcoin, donc tu vas envoyer 0,5 à l'adresse de qui tu veux envoyer, et tu vas renvoyer après les 0,5 à une adresse que tu contrôles, quoi. C'est-à-dire que tu es obligé de te le renvoyer à toi-même, quoi, en fait, après, quoi, là, ce qui reste, quoi.
Et l'adresse à laquelle j'envoie les 0,5, elle appartient à quelqu'un? C'est un truc complètement virtuel.
Bah, y a, par exemple, si tu veux envoyer 0,5 à quelqu'un et garder 0,5, t'auras, dans la transaction, tu auras donc une entrée qui sera les 1 Bitcoin qui sont à toi, et tu auras une sortie qui sera les 0,5 de la personne à qui tu veux envoyer, et 0,5 qui sera sur une adresse à toi, quoi.
D'accord, donc en fait, il va prendre le 1 Bitcoin, il va le splitter, et en fait, il va en envoyer un, et l'autre, il va me renvoyer avec un nouveau hash, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ils appellent ça les change d'adresse. Les adresses, bah, c'est le change, c'est la monnaie, quoi, en fait, quoi. Comme on dit, rendre la monnaie, quoi.
Et ça, donc, c'est l'algorithme qui fait ça.
Non, bah, c'est toi quand tu émets la transaction, hein. C'est quand tu crées la transaction, souvent, bah, effectivement, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas vraiment split, effectivement, quoi. Quand tu dépenses un bitcoin, enfin, bah, c'est avec la structure des transactions. Par exemple, quand tu as 50 bitcoins qui minés, tu peux pas en dépenser que 25, quoi. Une fois que tu dépenses la sortie, les 50, elles sont supprimées de la base de données, quoi. Et tu as les sorties qui sont rajoutées après derrière, quoi. Donc effectivement, donc quand tu crées la transaction, pratiquement toutes les transactions où tu veux dépenser moins que ce qu'il y a dans la sortie, tu es obligé de recréer, en fait, mais ça tous les wallets le font automatiquement, hein, mais effectivement, ça recrée une autre sortie par une adresse de ton wallet, quoi. Mais ça tous les wallets le font tout seul, hein. C'est que la plupart du temps dans les transactions, en fait, tu auras deux sorties, en fait, quoi. Tu auras la sortie de ce que tu payes et la sortie de ce que tu gardes, quoi.
Vu la technicité qui est nécessaire pour le Bitcoin ou pour toutes les crypto-monnaies, est-ce que tu penses que la personne donc lambda sera toujours, si jamais ça se démocratise, obligée de passer par un portfolio, enfin un portefeuille?
Ouais, mais en fait, enfin, les wallets SPV, enfin, tu sais, une carte bleue, c'est grosso modo le même principe, hein. C'est-à-dire qu'une carte bleue, c'est de la cryptographie asymétrique. Tu as une clé privée qui est sur ta carte. Et quand tu tapes le code, ça te permet de décrypter la clé qui est dessus, quoi. Donc, c'est à peu près, je veux dire, quand tu utilises un wallet crypto qui fait une signature d'une transaction, c'est quasiment pas avec une carte bleue, en fait, en vrai, hein. C'est le même principe, hein. En soi, c'est pas un truc compliqué, hein. La seule différence, c'est qu'effectivement, le wallet, il doit pouvoir vérifier les entêtes de blocs. C'est que c'est un peu plus lourd qu'une carte bleue, mais en soi, c'est pas des c'est des wallets qui peuvent être suffisamment sécures, hein. Bah après, il y a
Oui.
tous les problèmes qui sont liés aux pertes de clés, aux pertes de mots de passe, t'as oublié ton code, etc., quoi. Parce que contrairement à une carte bleue qu'on peut te renvoyer, tu perds ta clé, tu perds tes bitcoins, quoi. Donc ça, c'est le problème numéro un du truc, quoi.
Mais du coup aussi, ça veut dire qu'on est toujours dépendant d'une sorte de banque.
Non, si t'as ta clé privée chez toi, c'est comme une carte. Ce que je veux dire, c'est ouais, c'est parce qu'une carte bleue, en fait, c'est t'as juste ta clé privée dedans, quoi, qui te permet de signer les transactions, quoi. Donc là, si t'as la clé privée chez toi, personne pourra utiliser tes bitcoins sans ton autorisation. Et avec des wallets light, les wallets SPV, la simple vérification de paiement, tu peux vérifier toutes les entêtes de blocs assez facilement, hein, en téléchargeant quelques mégas. Tu peux vérifier que ta transaction elle est passée. Parce qu'en fait, le problème, il est plus du côté de celui qui reçoit la transaction. En fait, c'est plus le marchand, en fait, qui peut être lésé plutôt que le mec qui envoie, quoi, en fait, quoi. C'est plus de notre côté que ça pose problème, quoi, que le marchand puisse vérifier que la transaction va bien passer et qu'elle a bien été reçue, etc., quoi. C'est plus lui qui peut être éventuellement lésé, quoi. Mais après, en soi, le côté envoi, ça pourrait facilement être fait, hein, en vrai, hein. Mais c'est vrai que c'est le problème du truc, c'est que d'ailleurs, Craig White, il souligne ça, c'est qu'en fait, le gros problème de Bitcoin aussi, c'est que bah, Satoshi s'est barré au milieu. D'ailleurs, son dernier post, c'est que c'est quand WikiLeaks annonce qu'ils vont recevoir les paiements en Bitcoin. Là, on voit qu'il est affolé, il dit, ouais, la meute va nous tomber dessus maintenant. Et là, et après, il a disparu, on l'a plus jamais revu. Donc, ce qui fait qu'en fait, je crois que quand il s'est barré, Bitcoin, c'était la version 0.3, un truc comme ça. Donc, le développement a été interrompu. Il y a plein de trucs un peu mystérieux qui étaient dans le code source de Bitcoin au début. on sait pas trop ce que ça devait faire et compagnie. Donc le code a été beaucoup retravaillé, mais il y a plein de trucs qui étaient prévus en fait dans Bitcoin au début qui n'ont pas été vraiment finis, quoi. Notamment les wallets SPV, il n'y a jamais eu vraiment une implémentation correcte, quoi. Et une note Bitcoin, bon, faut quand même avoir hein, quelque chose comme 400 gigas d'espace pour la stocker, quoi. Alors que les wallets SPV, avec quelques mégas, ça suffit, quoi. Mais ça n'a jamais été vraiment fait, quoi. En tout cas, par les développeurs Bitcoin Core, quoi. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, on va dire, comme on dit, d'arrondir les angles, quoi, de polishing, là, comme on pourrait dire dans le software, ça, de plein de petits trucs qu'il faudrait un peu retravailler dans le code des nodes et des wallets pour que ce soit vraiment utilisable et que personne ne fait d'ailleurs. En fait, c'est ça qui m'énerve un peu avec l'écosystème crypto, c'est que malgré tous les milliards qu'ils récupèrent, les mecs, ils font pas grand chose en vrai. Hein. Au niveau justement que ce soit utilisable de manière vraiment décentralisée par des gens de manière sécure, ouais, ils font pas taf hein, quand même.
Ils participent pas vraiment à l'économie. Du coup, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez intervenir. Sinon, bah, oubliez peut-être un petit livre à conseiller et peut-être un petit mot de la fin.
Dans les livres intéressants que j'avais vus, c'était The 50 Footal Blockchain Monster, c'est-à-dire le monstre blockchain d'un mètre 50, qui était pas mal, qui détaillait pas mal les problèmes des blockchains. Il y avait celui que donc je parle depuis tout à l'heure là, que j'ai lu hier là, mais qui est vachement intéressant sur le Popping the Crypto Bubble. Et sinon, le problème, c'est que les documentations après de Bitcoin, elles sont pas disponibles dans des bouquins, quoi. Elles sont sur les forums Bitcontact. Et quel forum qu'a créé Satoshi. Je conseille aussi de lire les trades de Satoshi, hein, qui sont très intéressants en soi. Ouais, justement, parce que moi, j'étais surpris de lire, de voir qu'en fait, ils avaient vraiment prévu le côté spéculatif, bulle et tout, que toute la dynamique avait vraiment été bien anticipée dès le départ, en fait, quoi. Et qu'en fait, le problème, d'ailleurs, qui est souvent mentionné, c'est qu'en fait, enfin, que je pense qu'est vrai, d'ailleurs, hein, qu'en fait, à partir de 2014-2015, toute la com qui a été faite sur Bitcoin, elle n'a pas été faite par les développeurs Bitcoin, quoi, en fait. Elle a été faite par d'autres personnes qui sont plus ou moins quand même des scammers, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi compréhensif qui a été écrit par les créateurs, quoi. Ce qui est un peu un manque, mais sinon dans les livres, ouais, je sais pas qu'est-ce qui pourrait. Bah justement, ouais, non. Ouais. Après, c'est des livres de maths, quoi, genre la symphonie des nombres premiers, qui était assez intéressant pour comprendre un peu comment ça peut fonctionner un critère asymétrique. Je crois pas que ça parle de courbe elliptique, mais c'était quand même assez intéressant. Ouais,
Ok.
ça.
Bon,
Mot de la
si.
fin.
Voilà, un petit mot de la fin.
Bah. Ouais, après, faut s'intéresser à la crypto, quoi. C'est ça, quoi. La crypto, c'est quand même un truc qui peut vraiment. C'est un peu tout le. Enfin, c'est un peu ce qu'ils décrivent d'ailleurs dans le bouquin. C'est que, quand même, dans les années 2000, il y avait quand même un mouvement hacker qui était vraiment enthousiaste et pour justement démocratiser l'informatique et que finalement. Au cours des années 2000, on s'est retrouvé avec des grosses multis, genre Facebook, etc., qui exercent quand même un certain contrôle sur nos données de manière complètement asymétrique. Et que quand même, tout cet univers de crypto, ça peut permettre quand même de donner des outils aux gens qui permettent quand même de reprendre le contrôle de ces données, de pouvoir revérifier, d'avoir plus de contrôle sur nos données et les échanges de données entre plusieurs utilisateurs. Qu'on a plus aujourd'hui, quoi, hein, qu'on n'a jamais vraiment eu, mais que là, qu'on n'a pas du tout, quoi. Donc, ouais, quand même s'intéresser à la cryptographie, tout ce qui est les accords de cryptographie qui sont intéressants, hein, mais faut quand même se méfier des blockchains et pas écouter ce qu'on nous voit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup d'arnaques. Pas considérer que c'est un truc d'investissement ou de la finance, parce que c'est ça n'en est pas. Tous les projets qui te demandent d'acheter des tokens, déjà, faut oublier. C'est que les arnaques. Si tu achètes un bitcoin, c'est pour acheter quelque chose avec, c'est pas pour le garder dans ton portefeuille en attendant que ça monte. Et voilà quoi. Bon,
Eh ben, merci Obi hein, pour toute cette présentation, pour toutes ces
et bah
réponses
de rien. Hein.
aussi.
Oui, merci Obi, c'était assez complet.
Ah, merci.
Ok, maintenant on va arrêter le Twitch et l'enregistrement. Du coup, bah, ça sera parole plus libre.